Donc, ça enregistre.
C'est beau. Bon, bien, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Sainte-Pétronille du 7 juin 2021. Il est actuellement 20h03. Je vais commencer par le mot du maire. Nous sommes en juin 2021. Vous allez voir ce soir qu'on prend des décisions concernant le projet d'assainissement des eaux. Donc, on va traiter, bien sûr, du mandat, on va traiter du financement. Puis, vous allez voir qu'on va permettre aussi la signature du contrat. Tout ça pour vous informer qu'on va avoir, on est en train de planifier la séance de consultation publique dans le mois de juin. Donc, restez alerte, on va vous informer de la date et de l'heure de cette rencontre-là qui est prévue là, le plus tôt possible. Donc, premièrement, je valide les présences. Je commence avec Mme Lison Bertium.
Oui, bonsoir, présente.
Bonsoir, Mme Nancy Duchesne.
Présente.
Mme Marie-Claude Laflamme.
Bonsoir, présente.
Monsieur Yves-André Beaulet.
Présent.
Monsieur Jean Côté.
Présent.
Monsieur Éric Bussière.
Oui, présent.
Nous sommes accompagnés ce soir de notre directeur général, Monsieur Jean-François Labbé.
Présent.
Et de la directrice adjointe, Mme Chantal Blouin.
Bonsoir.
Bonsoir, mon nom à moi, Harold Noël, je suis le maire de la municipalité. Donc, je vous fais la lecture du projet d'ordre du jour. Donc, au point 2, adoption de l'ordre du jour de la session régulière de ce soir, du 7 juin. En 3, correspondance. En 4, dépôt de documents. C'est le rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois de mai 2021. En 5, adoption du procès-verbal de la session régulière du 3 mai 2021. Le point 6, c'est l'adoption du procès-verbal de la session spéciale du 7 mai 2021 qui traitait du règlement d'emprunt. Le point 7, refonte de la réglementation d'urbanisme suivie de la période de consultation écrite. Au point 8, demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures, une demande qui provient du 40 rue des Pins Sud. Au point 9, une autre dérogation mineure qui cette fois-ci vient du 43 rue des Pins Sud. Le point suivant, numéro 10. Règlement numéro 438 décrétant une dépense de 14 941 320 $ et un emprunt équivalent de 14 941 320 $ pour la mise en place d'un réseau d'égout sur le territoire de Sainte-Pétronille et la réfection du chemin royal. Le point 11, mandat au contracteur Charles-Auguste Fortier, excusez. Réalisation des travaux, assainissement des eaux usées, village de Sainte-Pétronille. Au point 12, mandat à Stantec. Cette fois-ci, c'est pour la surveillance des travaux à l'intérieur du projet d'assainissement des eaux usées. C'est pour une mise à jour budgétaire et ajout de services. Le point 13, un autre mandat à Stantec pour les services professionnels en ingénierie des matériaux et en environnement. Concernant, bien sûr, le projet d'assainissement des eaux pour le village de Sainte-Pétronille. Au point 14, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Le point 15, concours d'ordre public, la sélection du gagnant. Le point 16, entente pour l'horticultrice. En 17, schéma de couverture des risques en sécurité incendie. Validation du rapport d'activité de l'année 2020, au point 18, compte à payer, 19, d'hiver, 20, période de questions et 21, levée de la session. Est-ce que les élus ont des points à ajouter?
J'ai, dans les d'hiver.
Oui.
J'ai le sommaire de la consultation publique en vue de notre politique familiale. Un rapport sommaire de la consultation publique.
OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter?
J'avais des corrections à faire faire.
Pardon?
Moi, j'ai des corrections à faire faire dedans. Au point 6, c'est le procès verbal de la session spéciale, pas du 7 mai, mais bien du 6 mai.
OK, merci. On va valider ça. OK, donc c'est le 6 mai. Au point numéro 6, c'est bien le 6 au lieu du 7.
Exact. Et au point 10,
oui.
on parle de pourquoi qu'on dit pour la mise en place d'un réseau d'égouts, pourquoi qu'on on garde pas toujours le terme assainissement des seaux usés? Ça a-tu une importance? C'est la même chose? Oui,
tant qu'à moi, c'est la même chose.
Oui, parce que des fois, on utilise un terme, puis des fois, on utilise l'autre. En tout cas.
Ouais.
Puis la réflexion du chemin royal et de certaines parties de rue municipale, faudrait
ajouter. Et quelques parties
de certaines parties de rue municipale.
Oui, je le prends neuf. Municipale. Est-ce qu'il y a d'autres corrections, Mme Muni?
Non, c'est bon pour moi. Merci.
C'est beau.
Mme Duval, je vais rajouter un point.
Au point d'hiver? Oui, M. Ouais. Bautin?
Érudition. Ah, ben, moi, Jean y est passé. OK. Ouais, c'est ça. Moi, c'était, il y a des citoyens qui m'ont rapporté ça. Depuis, quelques semaines, il y a des gros camions, des 10 roues, là, qui voyagent dans la rue Orléans. C'est pas large. Puis, ouais. Ça roule vite. Puis, c'est au moins 20 voyages, à tous les jours que ça passe, là. Puis, il y a des jeunes enfants, puis tout ça, là. Je sais pas si, puis les jeunes, d'habitude, marchent, puis c'est une rue tranquille, mais là, ça roule, c'est 20 gros 10 roues qui passent à journée longue, là, aller-retour, puis ça roule, tu sais, fait que je sais pas, là, je sais pas ce que les élus n'en pensent.
Ouais, mais regarde, M. Éric, ce qu'on peut faire, c'est demander à M. Labbé d'intervenir auprès de la police pour envoyer une voiture de police, là, soit faire du radar ou soit valider là, la vitesse de ces camions.
Je veux dire, s'il y a des travaux à quelque part, ben il y a l'avenue Royale qui appartient à MTQ. Là, ça passe dans la petite rue sans cesse. Là, fait que...
OK. Bon, ben merci pour l'information. Mais informez notre directeur général, il pourra transmettre cette information à la Sûreté du Québec.
Ah, je me suis pris une note là.
Okay. C'est beau. Donc, est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter à l'ordre du jour? Oui, M. Côté.
J'aimerais rajouter dans les divers, je vais parler un petit peu du radar dissuasif qu'on vient tout juste d'installer. Okay. J'ai quelques statistiques là, à vous montrer.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter à l'ordre du jour? C'est complet. Donc, qui en fait la proposition? Ça veut dire que la proposition va inclure les corrections que Mme Bertillon m'a apportées, mm-hmm. plus les deux ajouts en divers. Qui le propose?
Éric Bussière, je peux le proposer.
M. Bussière le propose. Qui appuie? Qui appuie?
Je vais l'appuyer.
M. Jean, merci. Le point 3, correspondance. M. Labbé, est-ce que nous avons de la correspondance?
On a des questions. J'avais plus l'idée peut-être dépasser à la période des questions.
OK, parfait. Merci, on les reporte. Donc, au point 4, dépôt de documents, le rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois de mai 2021. Pour vous informer que dans le mois de mai, on a eu 17 demandes de permis pour un cumulatif au 31 mai de 53 demandes. Donc, c'est bien parti. Le point 5, adoption du procès-verbal de la session régulière du 3 mai. Donc, vous avez tous reçu le document, le projet de procès-verbal. Est-ce que vous avez des corrections à y apporter? Madame Bertillon?
Oui. Dans l'ordre du jour... on n'a pas inscrit les 4 points qu'on avait fait mettre dans le divers.
OK.
Dans la partie ordre du jour, parce que dans le procès verbal, sont là les points, mais dans l'ordre du jour, ils n'y sont pas.
C'est bon.
Okay.
Ensuite, le nom des élus. Au début, là, d'habitude, toute la liste de nos noms sont inscrits. Là, il n'y a aucun nom des élus d'inscrits.
Ah, OK. Okay.
Et ensuite, au point 11C. Qui est qu'on a parti. Je déroule, ce ne sera pas long. OK. L'exposition virtuelle sur les cœurs de dévotion, mais ce n'était pas de Sainte-Pétronille, ce n'était pas juste pour Sainte-Pétronille, les cœurs de dévotion, hein, M. Beaulieu?
Oui, c'est strictement pour Sainte-Pétronille. C'est, ça se passait à l'église de Sainte-Pétronille.
Oui, mais OK, parce que dans le texte, on dit qu'il y avait, il s'agit d'une exposition, des informations. Il y a une section sur Sainte-Pétronille.
Que... Oui. Ça, c'est dans l'inauguration de l'université d'été. Il y avait une présentation qui était faite sur les cœurs de Sainte-Pétronille, les cœurs de dévotion de Sainte-Pétronille, de l'église de Sainte-Pétronille. Dans le cadre des cours d'université, c'était la journée d'ouverture. Il y avait une heure consacrée spécialement pour des cœurs de dévotion de Sainte-Pétronille.
Oui, OK, mais c'est parce que vu que le texte, il disait qu'il y avait une section sur Sainte-Pétronille, je croyais que c'était pas juste pour Sainte-Pétronille, mais que c'était pour toute l'île. Parfait, c'est juste pour Sainte-Pétronille, c'est beau. Ça avait pas
d'intention. C'était pour toute l'île d'Orléans. L'invitation était faite pour tous les gens de l'île d'Orléans, plus précisément pour les gens que je connais, là. Mais c'est tous les gens de l'île d'Orléans qui étaient invités pour le spécial à 4h30, je pense. Il y avait les cœurs de dévotion de Sainte-Pétronille.
OK.
C'était une présentation qui se faisait à 4h30 dans les cadres de l'Université du Québec qui durait toute la journée. Ça durait toute la journée. Ça, c'était pour tous les gens de l'île étaient invités à se brancher. Moi, j'ai fait une invitation spécialement pour les gens de Sainte-Pétronille, vu que les cœurs de dévotion, ben, c'est dans notre église, n'est-ce pas?
Parfait. Voilà.
OK, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres corrections à apporter au procès-verbal du 3 mai? Donc, on ajoute les corrections. Madame Bertion, qui en fait la proposition?
Je le propose, Lison Bertion. Je propose,
qui appuie?
Je vais l'appuyer, Yves André.
Monsieur Beaulé, merci. Le point 6, adoption cette fois-ci du procès-verbal de la session spéciale du 6 mai 2021. C'est une réunion qui portait strictement sur le dépôt du projet de règlement concernant le règlement d'emprunt pour le projet d'assainissement des eaux. Est-ce que vous avez des corrections à apporter au procès-verbal?
Oui, moi j'ai encore quelque chose à apporter là-dedans. Attendez un petit peu. Quand on parlait la même chose, quand on parlait de la réfection du chemin royal et de certaines parties de rue municipale, puis là, ben, il y a différentes places là, qu'il va falloir le rajouter. On l'avait demandé l'autre fois, puis ça n'a pas été mis partout.
OK. Monsieur Labbé, c'est correct pour vous?
Oui, j'en avais corrigé quelques-unes, mais il y a en avoir d'autres. Là, on le répétait plusieurs fois, fait que peut-être qu'il y en a oublié, fait qu'on va refaire le tour.
OK. D'autres corrections?
Excusez. Non, j'ai un problème technique, là. Tantôt, je voyais tout le monde, puis là, tout d'un coup, je vois juste une personne, puis je suis plus capable de comment le rechanger pour voir tout le monde.
Je pense que c'est la personne qui prend la parole qui apparaît, c'est ça?
Oui, mais tantôt, j'avais mes 9 cases, je voyais tout le monde.
OK. Va en haut à droite, disons, dans affichage.
Ouais, l'affichage galerie.
C'est le seul, d'habitude, je vais là, mais là, c'est un petit carré. Les seules possibilités que j'ai, c'est être vidéo, mon micro, ma caméra, puis de sortir complètement. Ah.
Sur la photo de la personne que vous voyez, si vous allez en haut à droite, est-ce qu'il y a une petite flèche verte?
Il n'y a plus rien? J'ai rien de ça.
Parce que dans le haut à droite, il y a une icône qui s'appelle affichage. C'est ouais, quand vous cliquez là-dessus, ça fait ma vue. Là, c'est affichage intervenant, affichage galerie, scène immersive.
J'ai plus rien de ces icônes-là. Je suis devenue une petite image, tout simplement.
Est-ce que ça vous empêche pas de suivre?
Est-ce que je peux sortir pour me reconnecter, hein, Jean-François?
J'ai dit en haut à droite, mais sur
la... peut-être essayer.
Ça serait en bas à droite.
Ah, ça dépend peut-être de la version que vous avez.
Là. En bas à droite, cette flèche-là, OK. Je pensais que ça me sortait complètement. Excusez-moi,
bon?
Je me suis
dit comme ça. Donc, c'est bon. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer le procès-verbal de la session spéciale du 6 mai 2021 avec les corrections apportées par Mme Bertion. Qui en fait la proposition?
Je le propose, Lison Bertion.
Mme Bertion me le propose, Mme Laflamme l'appuie. Merci. Le point 7. Le point 7 profonde de la réglementation d'urbanisme suivi de la période de consultation écrite. Donc, le sujet a été traité lors de notre dernier caucus. Il y a eu des échanges là, sur le fond entre les élus. Monsieur Labbé, à ce point-ci, est-ce que c'est vous ou Madame?
Oui.
OK, je vous laisse la parole pour présenter les questions et les réponses qui ont été fournies.
Oui, étant donné l'état des choses, la période de COVID et l'empêchement de tenir une assemblée de consultation publique. Il y a une façon prévue par la loi de pallier à ça, et c'était la formule de consultation écrite. Donc, on avait donné une période de temps là, suite à l'adoption des projets de règlement en avril. Donc, on a publié les règlements sur le site Internet. Et bon, ils étaient disponibles à la mairie aussi, là, si quelqu'un voulait venir les consulter sur place aussi. Mais on avait tout sur le site aussi. Et on ramassait les questions jusqu'au 13 mai. Ces questions-là ont été transmises aux responsables de la MRC. L'urbaniste de la MRC, c'est M. Simon Lemieux, et l'aménagiste, M. Edison Sierra, a regardé ces questions-là et a envoyé des réponses. On a discuté aussi à la dernière rencontre préparatoire la semaine dernière. Puis ben, en tout cas, Monsieur Noël, je pense que je vais lire les questions, les réponses. Après ça, ben on pourra dire après ça là, qu'est-ce qu'on fait pour la suite des choses avec le règlement. On y va comme ça. Bon, on va commencer par Madame Hélène Hall qui avait posé deux questions. Donc, j'aimerais savoir pourquoi le terrain du 8600 Chemin Royal, qui est une maison patrimoniale, est passé en lot vacant. Donc en zone construisible. Ce grand champ pourrait servir beaucoup plus de terres agricoles que ma propriété que la propriété en face du 84-97 qui est dans la zone agricole. Et quand on regarde la découpe, on se demande bien pourquoi ce changement. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je n'arrive pas à trouver ce qu'implique le fait que ma propriété soit en zone agricole. La réponse la réponse du service d'urbanisme. La zone agricole permanente existe depuis le décret de 1978. La limite entre le périmètre urbain de la municipalité et la zone agricole n'a pas changé depuis le décret, mis à part l'ajustement au cadastre rénové, lequel ne constitue pas un changement, mais une correction. En ce qui concerne les cartes annexées au plan d'urbanisme, ce dernier est un document de planification et il n'est pas question de nombre de lotissements dans ce dernier. Les informations contenues dans le plan d'urbanisme servent principalement pour fin d'analyse et de mise en contexte. Donc, c'est la même chose. Il donnait comme exemple aussi la carte qui identifie les lots vacants. Donc, dans le fond, c'est uniquement, je pourrais dire, à titre informatif, là, ce genre de document-là. Donc, c'est pas un document là, qui vient donner des droits ou de l'enlever. Je sais pas si quelqu'un... au niveau du conseil, il veut ajouter quelque chose à cet élément-là.
Oui, Harold Noël. Autrement dit, si je comprends bien, là, c'est une décision de la Commission de protection du territoire agricole qui a désigné ces lots-là à l'extérieur de la zone agricole et bien sûr à l'intérieur du périmètre urbain. C'est ma compréhension.
OK, c'est parfait. Donc, il y avait M. François Courville qui avait posé des questions aussi. Donc, je voulais l'énoncer. Monsieur Labbé, je vous écris suite à la lecture des projets de modification au plan du plan et des règlements d'urbanisme et de construction en cours à la municipalité. Je félicite la démarche entreprise depuis longtemps et souhaite que la mise en œuvre de ce plan puisse contribuer à maintenir la grande qualité de notre village. Toutefois, la lecture des normes d'implantation proposées, je suis assez inquiet en ce qui me concerne personnellement. Dans le cadre réglementaire qui prévaudra dans la zone R811, plus rien ne protège la quiétude et qualité des vues dans ce projet de règlement. Je vous rappelle que nous avions convenu dans le cadre des îlots déstructurés de doter notre secteur de marges adaptées aux dimensions grandes des lots vacants pour éviter des constructions en vis-à-vis et assurer une cohabitation harmonieuse. Ainsi, mes nouvelles constructions devraient s'implanter à 20 mètres de notre chemin privé et 15 mètres en latéral, si je ne m'abuse. Je rappelle que ces quatre propriétés de plus de 5000 mètres carrés de superficie leur permettant des implantations faciles ont un accès sur un droit de passage plus bas et non sur notre chemin privé. Les normes contenues dans le projet de règlement ramènent les marges à 5 mètres en marge arrière, 3 mètres latéral et 7,5 avant. Avec les dégagements requis pour construire, il ne resterait plus un seul arbre entre une nouvelle construction et la nôtre, en plus de bloquer complètement nos vues sur le panorama. On peut construire jusqu'à 10 mètres de hauteur. De plus, dans un même souci de qualité environnementale, la municipalité avait respecté alors notre environnement libre de fil électrique aérien. Nous avons payé ces enfouissements. L'ancien règlement exigeait des futures constructions des alimentations de services enfouis. Or, rien n'a été fait en ce sens dans la nouvelle mouture présentée. Ainsi, l'ancien cadre réglementaire cherchait à créer la cohabitation harmonieuse. Le nouveau crée des situations conflictuelles. Je demande donc à la municipalité de voir à corriger cette situation en ramenant des critères d'implantation adaptés à cette situation particulière. Je crois d'ailleurs que pour le peu de terrain vacant sur le territoire, une réflexion devrait être faite pour optimiser les implantations de bâtiments et opter pour de l'enfouissement de fils. Ceux-ci contribuent à dégager l'environnement existant. Finalement, de façon plus globale, je pense que la démarche d'un plan d'urbanisme se doit d'être démocratique et participative, ce malgré la situation actuelle. Or, l'absence de présentation publique des grands objectifs et particularités nuit à l'adhésion sociale du projet. De plus, le court délai de 15 jours pour analyser et commenter constructivement à ce projet me semble nettement insuffisant. Je ne suis pas du tout à l'aise avec l'adoption d'un projet de règlement demandera au conseil de sursoir à son adoption afin de régler ce cas et probablement d'autres qui peuvent causer des préjudices à vos concitoyens. Bon, je vous serais reconnaissant de faire suivre au conseil cette demande. Évidemment, c'est ce que j'ai fait. Monsieur Corvée, par rapport à cet énoncé-là, évidemment, là, la MRC affirme évidemment que c'est dans la balle est dans le camp de la municipalité. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus.
Oui, je pensais que la réponse en gros, c'était la réponse d'Edison. Mais moi, ce que je peux rajouter, mais c'est plus une introduction. C'est que notre règlement de Sainte-Pétronille date de 1987. Donc, c'est un règlement qui a été corrigé, rénové à la pièce. Et aujourd'hui, la nouvelle réglementation a toute une nouvelle forme de présentation. Donc, c'est vraiment difficile de faire des comparables. La chose qui a été faite aussi, c'est que les normes urbanistiques obligent autant l'urbaniste que l'aménagiste, là, de mettre des normes d'implantation standard dans chacune des zones, et c'est ce qui a été fait dans ce cas-ci. Je vous cache pas que ça a été le sujet d'une discussion lors du dernier caucus, puis ça va continuer à l'être là, dans les prochaines semaines.
Ouais, ben c'est ça que je voulais un peu continuer avec ça, c'est que bon, on va un petit peu vendre la mèche pour tout à l'heure, mais bon, le processus réglementaire est présentement suspendu entre autres choses à cause de cet élément-là. Donc d'autres discussions vont survenir là, dans le mois. C'est pour ça d'ailleurs que, en tout cas, là, je m'adresse plus à l'auditoire là, que vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de suite au niveau de ces règlements-là. Donc c'est entre autres là, pour finaliser là, les opinions de tout le monde par rapport à cet élément-là principalement. Monsieur Courville avait d'autres questions. Là, cette fois-là, c'est sûr que là, j'ai les réponses de l'urbaniste. C'est sûr que là, pour ce que je viens de lire, et c'était moins évident peut-être pour le service d'urbanisme là, de dire oui ou non. Là, c'est plus là, du ressort de la municipalité. Mais pour les autres, il y a des réponses techniques là, qui nous viennent de la MRC. Donc, autre question, c'est en zone PA802, que permet l'usage CC3, établissement de séjour touristique? Donc, la réponse de service d'urbanisme de la MRC, c'est la zone 802 correspond à l'affection de récréation intensive et englobe le club de golf Orléans. Après ça, les établissements de séjour récréo-touristiques tels que les camps de vacances, campings rustiques ou aménagés. Après ça, il dit, voici ce qui est autorisé par rapport au règlement actuel. Ça, ce que je viens de vous lire, c'est le nouveau règlement. Ce que l'ancien règlement, ou si vous permettez, si vous voulez, le règlement actuel dans cette zone-là, c'était dans l'article 52, usage autorisé dans la zone PA2. À l'intérieur de la zone PA2, sont autorisés les usages suivants. Donc, A comme usage principal, terrain de golf, bâtiment connexe, camp musical, le groupe d'usage récréation plein air et le groupe d'usage utilité publique. Là, ce que je viens de vous lire, c'est le règlement 151, le règlement actuel. Et ce que j'ai lu tout à l'heure, c'était ce qui était proposé dans le nouveau règlement. Zone PA 801, je comprends que ça c'est la question, là. Je comprends que le lotissement de la construction résidentielle pourrait être permis sur le site historique de la maison Porteus et les lots y jouxtant. Donc, voici ce qui est présentement en vigueur. Article 53, là, on parle du règlement actuel. Usage autorisé dans la zone PA3. À l'intérieur de la zone PA3 sont autorisés les usages suivants. A, comme usage principal, édifice du culte, camp musical, le groupe usage récréation de plein air 1 et 2, le groupe usage habitation 3, exercé dans un bâtiment existant, au 3 avril 86, donc il y a une date là-dessus, ou dans un bâtiment reconstruit conformément aux dispositions de l'article 117, donc c'est règles relatives aux maisons d'insertion. Encore une fois, le règlement actuel, donc pas le nouveau, mais le règlement actuellement, permet déjà l'usage dans la zone PA3. Donc, le règlement actuel, selon la MRC, là, l'analyse qu'ils en ont faite, c'est que le règlement actuel permettait déjà l'usage d'habitation dans la zone PA3. Puis la PA3, ben, ça correspond à la nouvelle zone PA801. Du projet de règlement. Donc, concernant le lotissement, là, on est dans le nouveau. Il n'existe pas une interdiction de lotissement concernant la zone PA3 dans le règlement de lotissement en vigueur. Par ailleurs, le pouvoir habilitant provenant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme concernant le règlement de lotissement consiste principalement à régir la superficie et les dimensions des lots ou des terrains selon les contraintes anthropiques et naturelles exigées de conditions préalables à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale et prescrire des normes concernant les voies de circulation. Pour ce qui est de la zone PA801, qui est la nouvelle, il n'y a donc pas de changement concernant les deux éléments soulevés dans la question. Donc, pour résumer, là, sommairement, au niveau de la MRC, on soulève qu'il n'y a pas de changement concernant ces éléments-là. Toutefois, bon, on va terminer la réponse avec ça. Toutefois, le projet du nouveau plan d'urbanisme prévoit à l'article 9.3.2 que les nouveaux développements résidentiels de 3 lots et plus, ainsi que pour les projets récréo-touristiques, peu importe le nombre de lots, devront faire l'objet d'un plan d'ensemble incluant maintenant le respect de plusieurs critères. Il s'agit d'une nouvelle exigence qui n'existe pas dans le règlement actuel. Le projet du plan d'urbanisme semble répondre beaucoup mieux aux préoccupations des citoyens que la réglementation présentement en vigueur. Donc, ça serait plus restrictif peut-être là, que la réglementation actuelle. Pardon?
Oui, je peux rajouter qu'un plan d'ensemble, c'est possible de faire un plan d'ensemble, mais c'est une démarche légale. Qui est assez compliqué là. Vous comprenez? Un plan d'ensemble, c'est pas simple à faire. Je voulais seulement souligner ça.
Parfait. Donc, il y avait d'autres questions de M. Courville, mais c'est en lien avec le premier énoncé là, que je vous avais lu tantôt là, concernant là, les terrains en face de chez lui. Donc, il veut savoir le numéro de la zone où il vit, donc l'ancien R1-S2. Et les normes d'implantation avant le changement projeté. Donc, il souhaiterait qu'on revienne aux anciennes normes. Ouais. Et le numéro de zone de 4 îlots déstructurés devant, donc côté sud-ouest, et les normes d'implantation actuelles, dans le fond, en fait, c'est ça, c'est qu'il revient sur les éléments là, soulevés tantôt. Là, il veut que le conseil se penche là, sur ce qu'on avait, ce qui avait été fait lors de l'ancien règlement. Fait que ça, c'est des questions de M. Courville. Madame Lynn Gossemin, maintenant, avait posé des questions. Je vous lis ça. Bonjour, je viens de prendre connaissance des projets de règlement en consultation. J'ai des questions ci-dessous en lien avec le projet numéro 440. Avez-vous à la municipalité ou à la MRC un document qui précise les principales distinctions entre le règlement 151 qui est encore le règlement actuel de zonage et le règlement numéro 440 qui va être le nouveau, permettant de prendre connaissance de ces différences, outre la forme? Réponse de la MRC, il n'existe pas un tel document. Par ailleurs, il n'est peut-être pas pertinent de comparer un document originaire de 83 avec le projet de 2021. Bon, ce que la MRC veut dire par là, dans le fond, c'est sûr que l'origine du règlement actuel est assez ancienne, puis il y a probablement eu, là, avec les années, là, des façons de faire là, qui sont peut-être plus différentes là, qu'à l'époque. Après ça, il y avait d'autres questions. Est-ce que je pourrais obtenir une information simplifiée? L'autre question, le numéro 151 incluait des normes architecturales qui pouvaient différer selon les zones, notamment à titre d'exemple concernant les matériaux de construction, les volumes des bâtiments, les couleurs, l'intégration d'un garage ou bâtiment principal, et je ne retrouve pas de telles informations dans le règlement 440. Est-ce exact? Réponse de la MRC. Le règlement 151 inclut des normes architecturales qui se réfèrent à des tableaux de l'annexe B du règlement. Toutefois, le contenu de cette section de règlement a une portée de nature discrétionnaire. Étant donné que le règlement de zonage est un règlement normatif, il n'est pas possible d'y transposer du contenu discrétionnaire et évidemment, il n'est pas l'outil adéquat pour traiter l'implantation et l'intégration architecturale. Donc, pour ça, il y a des grilles maintenant plutôt que ces tableaux-là. Selon la MRC, là, c'est pour donner une valeur normative au document. J'avais d'autres questions. Si telles, encore Mme Gossemin, si telles normes architecturales sont absentes, y a-t-il des mesures prévues pour retenir autrement certains de ces éléments dans la gestion du construit dans notre village afin d'assurer la conservation d'esprit du lieu? Réponse de la MRC. L'outil proposé serait le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, un PIIA. Il est de la discrétion de la municipalité de se doter de cet outil. Par ailleurs, la municipalité avait débuté un projet de PIA il y a quelques années. Autre question, pourriez-vous me rappeler les prochaines procédures avant l'acceptation de ces projets de règlement par le Conseil? Y a-t-il encore place à quelques révisions et ajustements? Évidemment, la réponse, c'est oui, là, présentement, un peu comme on l'a dit tantôt. La procédure, on va dire qu'elle est suspendue le temps qu'on règle certains éléments en lien justement avec les questions qui ont été soulevées là, par les citoyens là, pendant le mois de mai. Donc, c'est pour ça que ce soir, on n'a pas d'adoption et qu'on ne va pas de l'avant là, pour le moment avec ça. Donc, on va probablement revenir à la charge un petit peu plus tard. Là. Je ne vais pas m'avancer sur des délais, là, mais on a des choses à vérifier et on va y revenir avec ça. Après ça, il y a une question. Je m'étais fait une note aussi, là. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Là. Il y a des questions qui s'accumulent à propos des terrains de la rue privée vis-à-vis de la rue Orléans, là, comme M. Courville soulevait. Donc, je le répète encore, c'est quelque chose qu'on va travailler dans les prochaines semaines. Question, Yvon Letourneau, arpenteur. Donc, c'est un arpenteur géomètre là, qui vient de Lille, qui travaille à Lille beaucoup. Donc, il demande, a-t-on considéré la notion de copropriété horizontale, verticale dans la nouvelle réglementation sur le lotissement? La MRC répond que la notion de copropriété verticale n'a pas été retenue lors de la rédaction des nouveaux règlements. Par exemple, s'il y a une construction d'un triplet, il va y avoir quand même qu'un terrain qui sera considéré au sens du règlement. Je pense qu'on aurait pu, si on avait eu une notion là, de copropriété verticale dans le règlement, ça aurait pu être considéré comme étant trois terrains, trois fiches, mais là, ça reste un terrain en sens du règlement. Par contre, la notion de copropriété verticale, elle est retenue, mais évidemment pour le bénéfice, pour l'évaluation municipale. Donc, l'évaluateur agréé, lui, évidemment, là, quand il y a un triplex, il va le considérer, mais au sens du règlement, ça n'a pas été considéré. Je ne sais pas si quelqu'un a quoi ajouter là-dessus. Fait qu'on va continuer.
Oui.
Madame Madeleine Poulain. En ce qui concerne les modifications aux règlements d'urbanisme de notre municipalité, afin d'assurer la transparence dans un dossier complexe et touffu qui touche plusieurs aspects de l'environnement et de la propriété des citoyens, je suggère fortement que la municipalité de Saint-Pétronille prépare avant toute adoption réglementaire un sommaire comparatif clair présentant les usages et les normes d'implantation actuelles et projetées par toutes les zones de la municipalité. Et ainsi, les citoyens pourront bien saisir l'ampleur des changements proposés et seront précisément et clairement informés des impacts de leur propriété, sur leur propriété, pardon, et sur les terrains de la municipalité. Là, évidemment, il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus.
Moi, je pourrais dire que lors de notre dernier caucus, là, c'est sûr, c'était un sujet qui a été discuté. Puis il y a un conseiller qui a pris en main de préparer un document synthèse qu'on va réanalyser à une prochaine rencontre d'élus.
Ouais, ben c'est moi, Rive Sud. Ouais. Puis c'est sûr que c'est un bon travail, mais j'ai commencé, mais c'est ça, j'ai pas terminé. Puis c'est sûr que ça se fait pas en cliquant comme ça. Mais ça va venir.
C'est bon. Fait que ça va être un document qu'on va analyser à une prochaine rencontre des élus. Merci.
Si je peux rassurer certaines personnes, il y a des zones qu'on avait travaillées qui n'ont pas été modifiées. Il y a celle sur le doigt de passage du côté nord, là, mais à part ça, il y a eu des terrains comme dans la rue Marianne que ça a été modifié. C'est une S1 ou une S2 qui est devenue une S1. Puis en réalité, ça vient être moins rigide dans les marges d'implantation. Mais c'est tous des terrains qui sont déjà construits. Hein. Fait que ça vient faciliter l'implantation, mais c'est déjà tout construit. Fait que il y a des terrains qui mes seuls terrains qui étaient pas construits, il y en a qui sont restés pareils. Puis il y en a juste un qui a eu des modifications. Fait que puis celui-là, on va se pencher dessus, bien entendu. Fait que il y a pas à s'inquiéter là-dessus. Présentement. Mais oui, je suis en train de faire le travail.
Bon.
OK. Merci.
M. Labbé? Oui, une dernière question pour finir avec cette section-là. Madame Anne Lié. Pouvez-vous me confirmer que le label lot vacant signifie construisible ou disponible pour être construit? Le cas échéant, quelles conditions s'appliquent à la construction? Concernant le lot vacant, tel montré sur la carte, en fait, là, vous ne la voyez pas, mais en tout cas, l'adresse, c'est le 8500 Chemin Royal. Il comporte déjà un bâtiment d'habitation. N'est-il pas tenu en compte? Merci de vos réponses. Réponse de la MRC. Un lot vacant n'est pas automatiquement construisible ou à construire. Le dit lot doit respecter les éléments contenus dans le règlement municipal sur les permis et certificats. Donc, ça veut pas dire justement qu'un terrain, un lot qui est considéré vacant, ça garantit pas la construction sur ce lot-là, parce que il y a toute la réglementation sur la construction qui est quand même assez, assez stricte. Le lot doit, dans le fond, correspondre à plusieurs critères, plusieurs éléments pour après ça être construisible. Puis évidemment, ben il y a tout aussi la notion là de, on doit être capable d'y intégrer l'alimentation en eau, donc un puits, puis les installations septiques, puis tout le kit et les distances séparatrices avec les voisins. Donc il y a beaucoup de critères là pour un lot, qu'un lot vacant puisse éventuellement être construisible. Je ne sais pas si quelqu'un avait des commentaires sur le lot, sur le 8500 Chemin Royal, là, Mme Lié soulevait un élément.
Je peux prendre la parole à Renoël. Ouais, oui. Autrement dit, ce lot-là aussi va être étudié lors de notre prochaine rencontre des élus. M. Bussière prépare un document, puis personnellement, moi, je sais où est situé ces lots-là. Et on va se pencher sur ces terrains-là pour vraiment savoir si c'est possible ou non de construire.
Parfait.
Et de façon, pour conclure le sujet, là, soyez assurés qu'on prend, on considère toutes les questions qui ont été déposées. Okay? Chaque élu prend son rôle vraiment au sérieux et on va continuer notre analyse là, avant de continuer la procédure d'acceptation de cette réglementation-là.
Parfait. Moi, ça faisait le tour là pour les questions des citoyens. Puis évidemment, ben, je répète une dernière fois aussi que présentement le processus est suspendu le temps que bon, on a parlé de M. Bussière a une préparation de documents à faire, puis il faut qu'on se positionne. Ben, on étant le conseil doit se positionner sur certains éléments, même plusieurs éléments qui ont été soulevés là, lors de la période de consultation.
OK, merci. Donc, on n'a pas de résolution à passer
non.
sur ça.
Là. Donc, non, c'est simplement un point d'information. Dans la vie publique et tout ça, on avait dit aux gens qu'on allait leur présenter là, les différentes questions qui avaient été posées.
J'ai vu passer une question de Mme Lié pendant que vous parliez, M. Labbé. Mme Lié posait la question suivante. Est-ce qu'il y a une date butoir pour l'acceptation des règlements d'urbanisme?
Pas vraiment. Parce que présentement, ce qu'on a fait comme procédure, c'est vraiment très simple. C'est qu'on a adopté des projets de règlement. Fait qu'il n'y a pas d'avis de motion qui a été donné encore. Et bon, évidemment, en déposant ces projets-là, ils devenaient publics, fait qu'on les a rendus publics pour la consultation qu'on a faite. S'il y avait eu un avis de motion puis un effet de gel, l'effet de gel qui s'en suit, ça aurait pu être problématique, mais là, présentement, il n'y a pas d'avis de motion. Donc, on peut prendre le temps de regarder ça, là. On n'est pas pressé. C'est sûr qu'à quelque part, il y a un schéma d'aménagement puis qui est en lien avec le PMA. En tout cas, là, je suis dans une patente là, un peu complexe, là, mais il y a une certaine date butoir qui existe, un peu théorique, mais on peut demander un rapport de date. Ça a déjà été fait. On peut en faire un autre. Donc, non, il n'y a pas péril à la demeure, on est capable de bien faire les choses et de prendre le temps qu'il faut pour ça. Mon humble avis.
OK, merci. Donc, j'irai au point suivant, le point 8. Une demande de dérogation mineure en vertu du règlement sur les dérogations mineures, c'est une demande qui a été posée par le propriétaire du 40 rue des Pins Sud. Donc, M. Bussière, est-ce que vous pouvez présenter le dossier?
Oui, en réalité, ils ont fait une demande de dérogation mineure dans le cadre d'une rénovation agrandissement du corps secondaire, donc du garage, et lequel était attenant à la résidence principale. La longueur de la façade avant serait de 18,31 mètres au lieu de 12,6 mètres réglementaires. La hauteur de l'étage comble serait de 4,57 au lieu de 4,4. Puis le rapport d'évaluation serait 1,84 mètres au lieu de 1,5 mètres réglementaire. Fait que dans le fond, le requérant a invoqué son impossibilité selon les dispositions réglementaires actuelles d'effectuer un agrandissement du garage en gardant la forme de la maison actuelle. Fait qu'il y a eu une analyse des membres du CCU. Puis on a considéré la volumétrie est respectée dans son ensemble. La volumétrie du 50% de son corps secondaire est respectée dans ça. Donc, les proportions permettent d'être continuité à la morphologie de la maison. Donc, Pour toutes ces raisons-là, ben le CCU proposait là, d'accepter la demande de dérogation du 40 des pins sud.
Est-ce qu'il y a des questions de la part des autres élus? Est-ce que quelqu'un fait une proposition?
Ben moi, je vais le proposer.
OK. Donc, on accepte. Le CCR recommande d'accepter la demande de dérogation mineure au 40 rue des Pins Sud. Est-ce que quelqu'un appuie, M. Bussial?
Ah, Mme Duchesne.
Madame Duchesne, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? OK. Donc, bravo. On accepte la demande de dérogation mineure. M. Bussière a appuyé Mme Duchesne. Merci. Le point suivant, c'est une autre demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures. Cette fois-ci, c'est pour 43 rue des Pins Sud. M. Bussière, je vous laisse la parole.
Oui. Donc, attendez un peu. Moi, je pense que dans les documents qu'on m'a donnés, j'ai deux fois le 40 rue des Pins Sud.
Ah, OK. Moi, je l'ai ici.
Moi, j'ai pas le 43 avec moi là, dans mes documents. Là.
OK. Donc, moi, je peux lire le procès verbal du CCU.
Moi, je l'ai, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, j'ai la résolution ici, là.
OK.
Vous la lisez ou?
Oui, lisez la résolution au complet, oui, s'il vous plaît.
OK. Bon, je veux simplement mentionner, évidemment, là, que le point a été discuté là, en rencontre préparatoire. Donc, évidemment, ce qui va être écrit là tient compte là, de ce que le conseil avait décidé à ce moment-là. Donc, attendu qu'une demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures a été formulée par M. Jean-Pierre Desjardins pour la résidence 43 des rue des Pins Sud. Bon, le lot 6 038 743 à Sainte-Pétronée, attendu que ce lot est situé dans la zone R15, attendu que cette demande a pour but de régulariser la construction du bâtiment principal, attendu que selon le règlement numéro 49 sur le zonage en vigueur lors de la construction de la maison, les marges latérales doivent être à 7,62 mètres. Attendu que le bâtiment principal a une marge latérale de 7,26 mètres, ça demande dans le fond de dérogation à ce moment-là de 0,36 mètres de moins. Attendu que selon le CCU, le requérant n'a pas clairement fait la démonstration d'un préjudice. Attendu que la demande est susceptible de créer un précédent pour d'autres demandes semblables. Attendu que le CCU émet la recommandation de refuser la demande de dérogation mineure. En conséquence, donc, il sera proposé par et appuyé par, là, en tout cas, ce qui avait été convenu lors de la rencontre préparatoire, c'était de refuser la présente demande. Je sais pas si c'est encore le cas ce soir. Donc, si c'est le cas, ben peut-être quelqu'un de proposer puis appuyer ouais. Ça.
Mais moi, je voulais savoir, parce qu'on a eu un courriel de l'arpenteur. Il venait dire que la situation qui date de 50 ans, c'était une erreur, blablabla. Bla, bla. Je ne sais pas si les élus en ont pris connaissance. Est-ce que ça peut brouiller la décision du comité d'urbanisme? Est-ce que ça peut créer un doute dans certains conseillers sur la décision de refuser la demande de dérogation?
Est-ce qu'il y en a qui ont
ce courriel-là vient de rentrer
une semaine prochaine.
Ouais,
après les élus, donc. OK. Oh, là, c'est clair, le courriel est plus récent. Est-ce que les élus ont des questions sur le projet déposé? Est-ce que le dernier courriel modifie votre perception? Moi, personnellement, Harold Noël, les échanges courriels qu'on a eus avec M. Desjardins là, amènent pas d'éléments nouveaux. Autrement dit, lui, c'est clair, espère que le fait que ça fait 50 ans qu'on puisse corriger ça, mais moi, par principe, vous comprenez qu'on peut difficilement accepter ça. Ça, c'est mon opinion personnelle. S'il y en a d'autres qui ont des idées différentes, là, on vous prière de vous exprimer.
Non, en réalité, ça vient avec la même ligne de vision qu'on a depuis toujours.
Ouais.
des travaux qui vont se faire, des rénovations qui vont se faire, si on analyse, puis si c'est harmonieux, puis ça s'intègre, puis etc. Il y a une grosse analyse à faire, mais après ça, on décide qu'on y va de l'avant, puis on accepte une dérogation mineure. C'est différent que d'accepter quelque chose qui a été mal implanté, puis de le rendre conforme aujourd'hui. Il y a une différence. Donc, pour cette personne-là, il peut quand même vendre sa présidence. Par contre, ben, c'est ça. Le CCU, en tout cas, dans ce dossier-là, recommandait de refuser la demande.
Est-ce que vous en faites une proposition, M. Bouchard?
Je propose.
Bouchard le propose. Qui appuie? Qui appuie, M. Bouchard? Madame Laflamme? J'ai vu votre main. Je me crois que non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pas de demande de vote sur ça? Donc, pour le 43 de Pin Sud, on refuse la demande de dérogation minale. C'est beau. Le point 10. Le règlement numéro 438 décrétant une dépense de 14,941,320,85 et un emprunt équivalent de 14,941,320,85 pour la mise en place d'un réseau d'égouts sur le territoire de Sainte-Pétronille et la réfection du chemin royal et quelques parties de rues municipales. Donc, M. Labbé?
Oui, donc, je voulais le règlement.
Lisez la résolution de règlement.
Oui, la résolution de règlement, en tout cas, c'est bon. Donc, attendu que la municipalité a mis en place un projet d'assainissement des eaux usées des résidents situés dans le périmètre urbain du village. Attendu que ce projet d'assainissement des eaux usées comprend la mise en place d'un réseau d'égouts et la réfection du chemin royal. On pourra rajouter et de certaines rues municipales aussi là, à cet endroit-là. Attendu que le gouvernement du Québec a accordé une subvention à la municipalité par l'entremise du programme d'aide primo pour la réalisation des travaux visés au présent règlement. Attendu que le ministère des Transports du Québec assumera les coûts d'une partie des travaux prévus au présent règlement. Attendu qu'en vertu de l'article 1061 du Code municipal, le présent règlement d'emprunt n'est soumis qu'à l'approbation du ministre, compte tenu qu'au moins 50% des dépenses prévues fait l'objet d'une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou par l'un de ses ministres ou organismes. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance tenue le 6 mai 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Le conseil décrète ce qui suit. Article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, le conseil est autorisé à effectuer les travaux d'installation d'un réseau d'égouts et de réfection du chemin royal selon les plans de vue préparés par SNC-Lavalin, portant les numéros 658-257 en date du 2 février 2021, incluant les frais, les taxes nettes, les frais de contingence et les imprévus tels qu'ils apparaissent de l'estimation détaillée préparée par SNC-Lavalin en date du 27 mai 2021, lesquels, plans et devis et estimations font partie intégrante du présent règlement comme annexe A et B. Article 3, le conseil est autorisé à dépenser une somme de 14,941,320,85 pour les fins du présent règlement. Article 4, aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 14,941,320,85 sur une période de 25 ans. Article 5, pour pourvoir à 5% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et sera prélevé annuellement durant la tenue de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après les valeurs telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Article 6. Pour pourvoir à 95% des dépenses engagées relativement aux intérêts ou en remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé, il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit l'annexe C, joint au présent règlement,
pour en faire partie intégrante une compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant 95% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt pour le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin. Donc, il y a des catégories d'immeubles. Immeubles résidentiels, c'est chaque logement. Dans le fond, un logement équivaut à une unité. Dans le fond, une unité est en tas de parts là, qui sera chargée. Après ça, un immeuble commercial représente deux unités. Immeuble commercial de restauration et ou productrice d'aliments, on est à 6 unités. Et autre immeuble, on donne la valeur de 1 unité. Donc, c'est le tableau sur lequel on se base là, annuellement là, pour affecter là, les différentes cotes-parts. Article 7. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. Article 8. Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement, toute contribution ou subvention pouvant lui être versée par le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement, notamment la subvention accordée à la municipalité par l'entremise du programme d'aide primo. Le conseil affecte également au paiement d'une partie de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Article 9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, donc adopté par le conseil de la municipalité du village de Sainte-Pétronée lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021. Et voilà.
L'étape de le proposer, M. Labeille, oui.
Pardon?
On est rendu à l'étape d'avoir un proposeur?
Ben, oui, ben, sinon, est-ce qu'on voulait, c'est sûr que les annexes, est-ce qu'on regardait un des documents d'annexes, on va y aller avec l'adoption,
on va dire les annexes, on avait discuté ça lors du dépôt du projet le 6 mai dernier. Donc, est-ce qu'il y a des questions de la part des élus? Est-ce que quelqu'un a fait une proposition pour le règlement?
Je vais proposer.
C'est une question ou une proposition?
Je propose.
Monsieur Jean Côté le propose. Qui appuie?
À l'appui. Éric Sciard.
Pierre, merci. Donc, je suis obligé de vous dire que le texte qui a été lu, là, ça a été vérifié par des aviseurs légaux de la municipalité là, pour être sûr qu'on est vraiment dans le coup. C'est beau pour le point 10. Le point 11. Mandat au contracteur CAF Charles-Auguste Fortier pour la réalisation des travaux de l'assainissement des eaux usées, village de Sainte-Pétronille. Monsieur Labbé.
Oui, attendu que la municipalité a publié sur le SEAO, donc SEAO Service électronique d'appel d'offres, le 1er mars 2021, un appel d'offres public afin d'engager une firme qui exécutera les travaux de construction de réseaux d'égouts sanitaires, la réfection du chemin royal et de certaines rues municipales. Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 22 avril 2021, attendu que 4 firmes ont déposé une soumission selon les délais prescrits, les chiffres que je vais vous donner sont taxes incluses. Donc, il y a Charles-Auguste Fortier qui a déposé une soumission à 12 573 727. Construction Pavage Portneuf, 14 074 776 84. Excavation de la fontaine, 14 787 439 58. Polaris incorporé, 14 055 693 et 75. Donc, je vous rappelle, là, taxes incluses. attendu que Charles-Auguste Fortier a présenté la plus basse soumission, attendu que l'analyse de celle-ci a démontré qu'elle était conforme. En conséquence, il est proposé par et appuyé par de mandater la firme Charles-Auguste Fortier pour effectuer les travaux de construction des égouts sanitaires, la réfection du chemin royal et de certaines rues municipales. Ces travaux se feront au montant de 12 573 727, taxes incluses. Il est important de mentionner que l'attribution de ce contrat est conditionnelle à l'obtention du règlement d'emprunt qui financera les travaux. Donc, évidemment, on a passé le règlement d'emprunt précédemment. Il va être approuvé par le MAMH et c'est à ce moment-là que le contrat sera effectif. Évidemment, là, cette étape-là, on est pas mal, comment je pourrais dire, dans les formalités, parce que la lettre de promesse d'aide de subvention nous a été acheminée cette semaine. Donc, le règlement d'emprunt, normalement, va être approuvé, là, ça va être une formalité. Donc, est-ce que quelqu'un peut proposer ça?
Qui en fait la proposition là, pour l'attribution du contrat à Charles-Auguste Fortier, qui le propose?
Oui, Jean Côté.
Monsieur Jean Côté le propose, qui appuie?
On l'appuie.
Yves André Beaulieu.
OK. Pardon?
Qui seconde?
Monsieur Côté, Monsieur Bussière.
OK.
Ouais, on va avoir une grosse dépense là, qui est soulignée. OK. Le point numéro 12. Cette fois-ci, mandat à la firme Stantec pour la surveillance des travaux, assainissement des eaux usées, mise à jour budgétaire et ajout de services. Monsieur Labbé?
Oui, le point 12, oui, surveillance des travaux. Attendez une seconde. Point 12. Bon, j'ai pas cliqué, ça va en affaire. Parfait. Donc, point 12, là, on parle bien de la surveillance des travaux.
Oui, exact.
Bon. OK. Attendu que la municipalité a mandaté le 7 février 2012 la firme d'ingénieurs de Sceaux, devenue depuis Stantec, pour la réalisation d'études et la préparation des plans de vie, ainsi que le service durant la construction concernant la construction d'ouvrages d'assainissement des eaux municipales et les travaux connexes s'y rattachant. Donc, pour ce libellé-là, ce qu'il dit, c'est dans le fond, Desso, en 2012, avait été nommé pour la rédaction des études préliminaires, plein de vie, surveillance des travaux. Donc, contrat qui touchait le projet dans son intégralité. Bon, là, je lis le reste. Attendu que le 3 février 2012, on va l'appeler le MTQ, a émis une nouvelle directive concernant le fait de ne plus confier le mandat de surveillance des travaux de construction au prestataire de service qui a effectué la préparation des plans de vie. Attendu que cette exigence est en vigueur depuis cette date et inclut les projets réalisés sous des ententes de collaboration entre le MTQ et les municipalités. Attendu que la confirmation d'une entente fut conclue entre le ministère et la municipalité concernant leur participation au projet. Attendu que le MTQ a informé la municipalité que cette entente exigeait l'application intégrale de la directive du 3 février 2012, donc qui nous empêchait de donner le contrat de plein de vie à Desso Stantec. Donc, attendu que la municipalité ait retourné un appel d'offres suite à ça en 2018 afin de se trouver une nouvelle firme de génie conseil pour la réalisation des pleins de vie. Attendu que le contrat ait été octroyé à la firme SNC-Lavalin. Attendu que maintenant les pleins de vie sont terminés. Attendu que les travaux commenceront bientôt. Attendu que selon l'entente en lien avec la résolution 2018-014, la firme Stantec conserve la portion reliée à la surveillance des travaux. Donc, quand on va dire, cassé le contrat avec Stantec à l'époque, l'entente, c'était cautionné par le ministère aussi, c'était que Stantec revenait à ce moment-là pour la réfection des travaux comme ça avait été entendu en 2012 là, lors de la fameuse entente globale. Donc, attendu que maintenant, bon, il faut mettre à jour les chiffres présents dans la résolution 2018-014. Donc, conséquemment à ça, il est proposé par et appuyé par de mandater la firme Stantec pour effectuer la surveillance des travaux de construction des égouts sanitaires, la réfection du chemin royal et de certaines rues municipales. Ces travaux de surveillance se feront au montant de 349 659 $ taxes en sus, tel que stipulé dans l'offre de service datée du 12 mai 2021. Donc, il y a eu des mises à jour de coûts, évidemment, là, dans cette offre de service-là. Ça tenait compte des normes du ministère du Transport qu'il faut se conformer. Ça, c'est venu monter de la facture. Ça n'avait pas été envisagé à cette époque-là. Et étant donné les délais qui se resserrent, l'entrepreneur, on a discuté un peu avec lui, il nous avait confirmé qu'il allait avoir deux équipes de travail sur le chantier. Donc, évidemment, là, ça augmentait un petit peu les coûts de surveillance à cause qu'il y avait deux équipes au lieu de. Fait que c'est principalement ça. Donc, je sais pas s'il y avait des questions, des commentaires là-dessus. Sinon, ça prendrait quelqu'un pour proposer puis appuyer, s'il vous plaît.
Il propose. Monsieur Jean Côté, il propose qu'il appuie.
On appuie, Éric Bussière.
Oui, Monsieur Bussière, merci. Donc, pour la surveillance des travaux. Le point 13, encore une fois, mandat pour Stantec. Maintenant, pour les services professionnels en ingénierie de matériaux et en environnement. Concernant le projet de l'assainissement des eaux pour Sainte-Pétronille, Monsieur Labbé.
Oui, ça évidemment là, c'est alors évidemment bientôt lors de la phase de travaux, il y a un laboratoire qui doit être mis en place là, puis c'est ce labo-là qui va inspecter les matériaux puis à s'assurer que les matériaux soient la qualité requise, que ça respecte l'environnement et tout ça. Donc il est proposé par et appuyé par de mandater la firme Stantec pour les services professionnels en ingénierie des matériaux et en environnement pour un montant de 86 973,31 $ taxes en su, le tout tel que présenté dans l'offre de service du 13 mai. C'est un contrat de gré à gré. Là. Notre politique de gestion contractuelle, elle est modifiée depuis quelques mois pour nous permettre là, d'y aller de gré à gré jusqu'au tour des 100 000 $ là, pour les contrats. Donc, je sais pas s'il y avait des questions là-dessus.
Est-ce qu'il y a des questions sur le deuxième mandat de Stantec pour les services professionnels en ingénierie?
Une des plus grosses parties là-dedans, c'est la vérification de la compacité.
Oui, voilà.
Des sols. Ouais. Ça prend des équipements, des nucléos de densimètre pour calculer vraiment là, la densité des sols après les travaux. Fait que c'est une des parties qui est importante là, pour pas qu'on ait d'affaissement. Mais c'est une partie qui coûte 40 000 $
Oui, non, c'est beaucoup. OK, qui le propose?
Je vais le proposer.
Monsieur Jean Côté propose qu'il appuie.
Je vais l'appuyer, Réduction.
Madame Laflamme a levé la main. Merci, Madame Laflamme. Merci. OK, le point suivant. On commence à parler des élections l'automne 2021. Le point 14, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Monsieur Labbé.
Oui, bon, avant de lire la résolution, toute mise en contexte, là, ça va être la première fois que la municipalité va proposer le vote par correspondance. C'est pour les gens de 70 ans et plus. C'est plus dans le fond le contexte de la pandémie pour permettre, dans le fond, si jamais, parce qu'on à l'automne, des fois, bon. On entend parler là qu'il va peut-être, je dis bien peut-être, là, on sait pas, là, peut-être avoir une autre vague là, on souhaite pas, là, mais en tout cas, on essaie de parer à une autre comment je pourrais dire, en tout cas, là, c'est ça, une infection, pas une infection, Seigneur. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire dans le fond.
On retombe à
c'est ça. Fait pour protéger un peu les gens 70 ans et plus, on leur offre cette possibilité-là. Fait que si les gens, mettons, les cas augmentent à ce moment-là, les gens 70 ans et plus qui sont les plus vulnérables vont pouvoir demander
le vote par correspondance, donc ils vont pouvoir rester à la maison puis voter quand même, puis éviter de s'exposer peut-être à être contaminé là, en se présentant à ces lieux de votation. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est sûr que pour ce qui est des autres, les 70 ans et moins, les directives sont très claires. La loi dit en période de pandémie, comme on l'est actuellement, s'il y a des gens de 70 ans et moins qui sont confinés parce que, bon, soit ils ont attrapé le virus ou ils sont en attente de tests et des choses comme ça, ben d'office, ils ont le droit de contacter la municipalité et de demander le vote par correspondance. Là, on parle des gens 70 ans et moins. Ça veut dire, dans le fond, 70 ans et moins, si tu es malade, la COVID, c'est sûr que si tu as une autre maladie, ça s'applique pas, mais si tu as la COVID, la municipalité a l'obligation de te faire voter par correspondance. Donc, c'est pour ça là, qu'on l'adopte pour les 70 ans et plus, parce que ce sont les plus vulnérables, mais les autres, sachez là, que si jamais il arrive quelque chose dans ce sens-là, la loi s'applique et la municipalité va vous faire voter. Donc, je vais lire la résolution. Considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de pandémie de COVID-19, considérant que le directeur général des élections a édicté, conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre dans le contexte de pandémie de COVID-19. Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement. C'est assez bizarre. Dans le fond, le directeur général veut faciliter la votation en période de pandémie, c'est ce que ça veut dire. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 159.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités telles que modifiées par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur dans sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d'exercice de son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, considérant qu'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 159.4 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités telles que modifiées par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Donc, il sera proposé par et appuyé par et résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé par le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande, de transmettre au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'au directeur général de l'élection, une copie vidimée de la présente résolution. Dans le fond, ça va être valide pour l'élection actuelle et pour si jamais là on doit recommencer une partie. Puis si j'ai bien compris aussi, les parcelles pour ces quatre ans-là, on va le permettre. Et il faudra se poser la question lors de la prochaine élection générale, à savoir si la municipalité veut maintenir ça. Dans le fond, c'est à renouveler ça à chaque élection générale, là, si on offre cette possibilité-là ou pas.
OK. Qui le propose?
Je vais le proposer, Yves-André Beaulé.
M. Beaulé, qui l'appuie?
Je l'appuie, Vincent Bertion.
Madame Bertion, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde est d'accord? Merci. Le point 15, concours d'ordre public, sélection du gagnant. Madame Bertion.
Oui. Nous avons eu je vais sortir mon petit document. On a fait dernièrement, vendredi, le 28 mai, on a fait la sélection de notre œuvre d'art gagnante. Je peux vous dire qu'on a eu quatre participants. on a eu des belles œuvres. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit peu une courte description de chacune des œuvres? OK. On a eu Madame Christine Hébert de Saint-Laurent qui nous a proposé une œuvre qui s'intitulait « Enchantée ». C'était quatre visuels de ses photographies qui étaient installés sur des grands panneaux et qui représentaient l'île d'Orléans, qui était l'église avec d'autres choses qui étaient de la nature. C'était tout présenté en aluminium. Ensuite, on a eu Mme Violette Doulet de Sainte-Pétronille qui nous a présenté « Écouteurs de silence ». Ça symbolisait le moment, l'instant où le silence entre en nous au contact de la nature, loin du brouhaha de la vie quotidienne. C'était des brins de gazon qui rappelaient les flèches du clocher de l'église et qui ramenaient au silence, au lieu de méditation. Et il y avait aussi un escargot qui se déplaçait avec lenteur, qui donnait le rythme de la promenade qu'on veut afin d'apprécier les calmes du boisé. Ça, c'était présenté en acier. On avait Madame Nathalie Tremblay de Saint-François qui nous a présenté... c'est un grand chêne rouge fabriqué en aluminium il y avait quatre feuilles sur les pointes qui étaient disposées aussi, qui s'intégraient au paysage. Et en dernier lieu, on a eu M. Philippe Pralafré et sa conjointe, Mme Anne-Yvonne Joël. Ils nous ont présenté la sculpture, une sculpture qui est constituée de deux arches à section carrée en métal rouge de taille différente. Les adultes peuvent passer dans la grande arche pour emprunter le sentier du boisé. Puis les enfants, ben, quant à eux, ils auront la joie de se voir réserver leur propre passage sur la deuxième arche, parce que la dimension est plus petite. Puis en passant à travers la sculpture, les promeneurs découvriront sur les surfaces intérieures les empreintes laissées par des mains des habitants de Sainte-Pétronille. Ça s'appelait La Trace. C'était une sculpture qui nous est présentée. Et c'est cette sculpture-là qui a été retenue par nos trois juges. Ça n'a pas été super facile. On a eu c'était quatre beaux projets, vraiment, là, quatre belles choses. Je peux vous présenter, je vais essayer de montrer à mon écran. Et je ne sais pas si vous le voyez.
Non,
non, non.
C'est
trop
d'écran, on voit
Mme Bertion. Ah ouais, ça marche pas. Bon, en tout cas, vous allez le voir quand ça va être installé. C'est vraiment là une arche, c'est des grands carrés que les gens vont passer. Et la particularité de cette œuvre-là, c'est qu'on va inviter la population, ceux qui le désirent, ils vont pouvoir aller faire leurs empreintes de leurs mains. Et ces empreintes-là vont se retrouver à l'intérieur de l'arche. Que ça va faire une façon que les citoyens vont être imprégnés par leurs empreintes dans cette œuvre d'art-là et que ça va rester pendant plusieurs années. Au niveau des critères, on avait trois juges qui viennent du domaine des arts qui ont accepté de venir faire le jugement. C'est des personnes vraiment du domaine des arts. Donc, ils regardent pas. Moi, je m'en occupe. J'étais là, j'ai été la présentation, mais je ne jugeais pas du tout. C'était eux, les trois juges, qui ont pris la décision. La décision était nous compte, on tenait compte de l'intégration de l'œuvre dans le paysage. Les matériaux utilisés au niveau de la résistance des matériaux aussi pour que ça dure longtemps, que l'hiver, comment ça se comporte, toutes ces choses-là. Et en particulier aussi sur la sécurité de l'œuvre. Parce qu'on sait que dans un sentier comme ça, on a des gens de tout âge qui vont se promener. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas que ça soit très sécuritaire. Donc, cet élément-là aussi a été tout analysé. Fait que l'ensemble des éléments a fait que l'œuvre gagnante pour cette année, ben, c'est M. Palaisfré et Mme Yoann qui ont gagné. Fait qu'au courant de l'été, l'œuvre va arriver. C'est sûr que cette année, on est en retard dans notre jugement dû à la pandémie. Donc, l'œuvre, on s'attend qu'elle va être finalisée et installée probablement fin août-septembre. hâte de voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis je remercie, moi, tous les participants qui ont fait l'effort de présenter des projets. C'était très intéressant, mais comme on sait, il faut toujours juste un gagnant. Puis, ben, ça a été M. Palafré, Mme Yohann.
Est-ce que vous en faites une proposition, Mme Bertion?
Oui, moi, je propose cette œuvre gagnante.
C'est votre choix. Qui appuie Mme Bertion?
Je vais l'appuyer, André Beaulé.
M. Beaulé, merci. Donc, on a bien hâte de voir cette œuvre d'art-là. Puis, Madame Bertion, merci à toute votre équipe là, du beau travail que vous avez présenté.
Merci.
C'est beau. Le point suivant, entente avec l'articultrice, M. Labbé.
Oui. Donc, l'articultrice, Madame, encore cette année, Madame Valérie Chauvenel. Bon, elle a déjà commencé, c'est juste que c'est plutôt pour régulariser la situation. Là, on a négocié son traitement là déjà, ça fait déjà un bon bout de temps, mais bon, on voulait l'officialiser par une résolution du conseil. Donc, pardon. Donc, je vous lis la résolution. Donc, il est proposé par IAPIEPAR d'engager Mme Valérie Chauvenel à titre d'horticultrice aux conditions suivantes. Son taux horaire est de 20 et 71 $. Le nombre moyen d'heures par semaine est 16 heures. La période de travail du 3 mai au 31 octobre 2021, donc c'est 26 semaines en temps normal. 3 mai étant la date limite pour entreprendre la saison. Et les 26 semaines de travail sont calculées à partir du premier jour de travail sans possibilité d'inclure des semaines supplémentaires. Bon, les frais de déplacement dans le cadre de son travail sont assumés par la municipalité pour les achats et le déplacement sur le territoire de la municipalité. Ça, c'est pratiquement éliminé parce que dans le fond, il y a le camion de la municipalité dont Mme Chauvenel et ses employés se servent aussi. Donc, mais on le mentionne pareil ici et là à se servir davantage à un moment donné pour son véhicule personnel. Dossard fourni afin d'assurer la sécurité. Bon, usage du tracteur, du camion et d'autres véhicules appartenant à la municipalité. C'est un entente avec les employés municipaux. Pas qu'il y ait de conflit, mais ça va bien aussi. Les superviseurs, son superviseur, c'est moi. Puis il y a M. Robert Martel pour le volet horticole, là, dans le fond, les différents aménagements, qu'est-ce qu'on met, puis tout ça, là, M. Martel gère ce bout-là avec Mme Chauvenel. Donc, modalité sur les 30 jours, l'une ou l'autre des parties peut mettre fin à la dite entente.
OK. Qui le propose?
Je vais te proposer, moi.
M. Beaulé, j'avais vu une main aussi, là, qui appuie M. Beaulé.
Lisons.
C'est l'horticultrice, je m'en occupe aussi, là.
Ah, c'est bon, c'est votre responsabilité, merci. M. Beaulé, avez-vous des choses à rajouter?
Non, c'est beau. Moi, je vais seconder.
Oui, bon, non, vous le proposez, Mme Bertion, OK, ça, c'est beau pour ça. Le point suivant, 17. Schéma de couverture de risque de service incendie. Rapport d'activité de l'année 2020, c'est pour vous informer là que l'île d'Orléans a un service incendie qui couvre toute l'île d'Orléans. Il y a 4 casernes dans 4 municipalités sur 6, qui sont les 4 municipalités centrales. Saint-François et Sainte-Pétronille n'ont pas de caserne. Cette fois-ci, on doit accepter le rapport d'activité de l'année 2020. Monsieur Labbé?
Oui, résolution, contexte, la MRC de l'Orléans a reçu l'attestation du ministère de la Sécurité publique pour la révision de son schéma de couverture de risque le 19 décembre 2019. Le rapport d'activité, excusez-moi, là j'ai une graine dans l'œil, bon, le rapport d'activité 2020 est le bilan de l'an 1 du plan de mise en œuvre du présent schéma révisé. Considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie exige à toute autorité locale ou régionale et chargée de l'application des mesures prévues un schéma de couverture de risque d'adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. considérant que les accomplissements ont pour effet d'améliorer la sécurité incendie sur l'ensemble du territoire de la municipalité, considérant que le Québec entier avait la même obligation de réaliser un schéma de couverture de risque en incendie, pour ces motifs, il est proposé par et appuyé par, résolu à l'unanimité, que la municipalité régionale de comté de l'Île-d'Orléans adopte le rapport constitué du bilan des activités des services de sécurité incendie sur son territoire, démontrant les actions réalisées au cours de l'année 2020 en regard des objectifs fixés au schéma de couverture de risque en incendie adopté en décembre 2019, et transmettre copie du dit rapport à la ministre de la Sécurité publique conformément à l'article 35 de la loi Sécurité incendie. Donc, on doit, nous aussi, de notre côté, donner notre accord à ça. Donc, quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît?
Je propose.
Duchesne.
Madame Duchesne, merci. Qui a appuyé?
Je vais l'appuyer, Éric Duchesne.
Monsieur Duchesne, merci. Merci. Donc, Saint-Pétronil donne son accord, puis ultimement, la MRC prend les six accords, puis envoie la décision au ministère. Merci. Le point 18, compte à payer. Vous avez tous reçu un bordereau des comptes à payer. La version 2 oui. Donne un total de 181 614,58. Est-ce que vous avez des questions?
Pour les élus, ça va être, vous en aviez deux, parce que d'un coup, si vous avez mis des notes sur le premier, là, j'en ai fait un modifié cet après-midi. Ça va être celui qui s'appelle V2. C'est le même là qu'on a mis en ligne là, pour le bénéfice des gens ce soir. Fait que dans le fond, oui, s'il y a des questions, allez-y.
Enveloppe 12 647,25, c'est pour quel projet, ça?
C'est la réflexion, la phase 2 de la Orléans qu'on voulait faire cet été, qui, en tout cas, M. Côté pourra peut-être préciser, là, mais qu'on envisage peut-être là, de pas la faire, étant donné qu'on va tomber bientôt en assainissement des eaux. Donc, le 12 000, c'est les frais d'ingénierie, là, le devis qui est préparé. Autrement dit, on est prêt à donner un contrat ou aller en appel d'offres, là, dans le fond, on a comme un clé en main là, pour pouvoir avancer ça là, l'année prochaine ou quand ça sera le temps. Je sais pas si Jean, t'avais quelque chose à rajouter là-dessus.
Ouais, j'aimerais juste rajouter que on pensait faire une petite partie cette année puis une autre partie l'année prochaine. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait plus de dommages à réparer qu'on avait évalué. Donc, ça nous aurait forcé à aller deux fois en appel d'offres, puis arriver peut-être avec deux entrepreneurs différents pour les deux phases là, suivantes. Fait qu'on a préféré peut-être, en tout cas, c'est l'hypothèse là, qui va être retenue probablement, là. C'est pas final encore, mais de reporter l'ensemble de l'œuvre à l'année prochaine, mais tout faire là, les deux phases en une seule occasion par le même entrepreneur. On pense qu'on va éviter pas mal de problèmes comme ça. C'est ça, parce qu'on prévoyait, comme on disait, là, le faire en deux phases. Mais même séparé en deux montants, c'est des montants qui s'approchent des 100 000 $ donc ça nous force à aller en appel d'offres public deux fois de suite. Fait qu'on veut essayer d'éviter ça.
Fait que ces études-là vont être bonnes dans le futur.
Oui.
Oui, le projet de vie va être bon. C'est bon. D'autres questions sur les comptes à payer?
Ben, 20 000 piastres GMD, y a-t-il quelque chose de spécial?
Oui, GMD.
Faudrait écrire GMD, non JDM, là.
De quoi?
Ouais.
Bon. Évidemment, oui, il y a $10 000 balayage des rues.
C'est ça, oui.
Ici, il y a un autre montant. Attendez, c'est une facture corrigée, ça. Non, c'est ça. Il y a une autre facture aussi de à peu près du même montant pour le nettoyage des rues. Ensuite de ça, il y a un 5 000 ici. dans le coin d'Horacio Walker, là, il y avait de la réfection de chaussée un peu à faire, là. En fait, la section, là, qui avait pas d'asphalte, il y avait des trous, puis il fallait corriger ça. Ensuite de ça, la rue Genet, ouais, il y avait un petit job là de terrassement dans la rue Genet. Ben, pas de terrassement, mais réparation de fossé dans la rue Genet, 1437. Et deux manoles dans la rue des Pins Sud à réparer, remplacer, 2700. Dans le fond, là, des manoles qui fonctionnent à pas, qu'il fallait réparer.
OK. D'autres questions sur les comptes à payer? Qui les propose?
Oui, Bussière.
Monsieur Bussière le propose, qui appuie? Monsieur Jean Côté, merci. Le point 19 d'hiver, on a deux points d'inscrits. Le premier, politique familiale, le sommaire, monsieur Beaulé.
Alors, en réalité, c'est les résultats faisant suite à la consultation qu'on a fait, avec grand battage pour sonder les cœurs, comme on veut, de la population de Sainte-Pétronille. Alors, avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier la population de Sainte-Pétronille d'avoir répondu. 26% de tous les répondants de l'île d'Orléans viennent de Sainte-Pétronille. C'est énorme. Je l'ai déjà répété. Alors, merci beaucoup à la population de Sainte-Pétronille.
Bravo.
C'est au-delà de nos espoirs. Alors, je vais commencer par dire que les grandes lignes, seulement les grandes lignes, parce que si vous voulez le consulter, je vous le donnerai les sites, là.
Ouais.
Selon la consultation, les trois raisons de demeurer à Sainte-Pétronille, par temps normal, là, on s'entend bien par temps normal, là. Et là, on parle pas de COVID et du trafic là qu'on a. Alors, c'est sont influencés en grande partie par la tranquillité que l'on y retrouve en temps normal. J'ai bien en temps normal, là, OK? Pas le dimanche qu'on a eu, là, mais en temps normal. Par les paysages et la nature, et finalement parce que c'est un bon endroit pour élever leur famille, les familles. Alors, ça, c'est des trois raisons pourquoi les gens choisissent de demeurer à Sainte-Pétronille. Par rapport aux autres villages qu'on peut avoir. Les variations de l'âge et des réponses, c'est assez intéressant. Vous allez voir, c'est pas mal. Les réponses sont pas mal en fonction de l'âge que les gens se situent. Alors, 23 des répondants sont âgés de 26 à 45 ans. 22% des répondants sont âgés de 46 à 65 ans. Ça, c'est ton âge, Jean, là, je pense, hein, c'est ça? Bon, 15% des répondants sont âgés de 66 ans à 75 ans. Ça, c'est mon âge. Puis 18% des répondants, c'est 75 ans et plus. Là-dedans, on met certaines personnes, je nommerai pas là. Alors, je vais y aller par le premier choix qui a été exprimé par la population. C'est pas surprenant. C'est vraiment une demande qui a été faite depuis plusieurs années. Ça s'exprime par l'ajout de sentiers multifonctionnels et multigénérationnels. Alors, ça, c'est le premier choix de l'ensemble de la population. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, on l'élaborera ça un peu plus tard. Bon. Le deuxième choix, c'était l'ajout de modules d'entraînement pour les adultes. Alors, on a ça un peu partout à travers la ville de Québec. C'est rien de surprenant. Ça reflète à peu près tous les groupes d'âge, là, à partir de 45 ans, je pense, jusqu'à 85 ans. Le troisième choix, c'est l'organisation d'activités à l'extérieur, pas à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, en temps normal, pas en temps de pandémie où on peut rien faire, là. Alors, on suggère du cinéma en plein air, des rallyes, des visites guidées, un peu comme on faisait habituellement, les tournois de hockey, les fêtes hivernales, un peu comme on faisait habituellement, les visites guidées habituellement qu'on fait Robert et moi. Alors, il y a plusieurs autres détails, là, mais c'est beaucoup axé sur des activités à l'extérieur. C'est bien normal, en fait, ça. Et le quatrième choix, et je le souligne parce que c'est des tables de pique-nique, l'addition de tables de pique-nique. Alors, on a déjà fait ça par l'addition de 5 nouvelles tables de pique-nique qu'on va retrouver un peu partout là, au centre communautaire, dans le boisé. Ça répond à une très grande demande pour les familles. Alors, ça résume un peu ce qui a été fait. Je remercie encore énormément la population et on en tient compte pour l'élaboration de notre politique familiale. La politique familiale, je le répète, c'est pas pour les beaux yeux de tout le monde. On va chercher du financement avec ça. Pour vous donner un exemple, on vient juste de recevoir 100 000 $ de subvention pour le boisé. Alors, ça nous a aidé à subventionner ce boisé-là. C'était inclus dans notre politique familiale. Alors, avec des choses qu'on peut mettre dans la politique familiale que la population demande, après ça, on peut demander des subventions en fonction des demandes qui sont exprimées par la population. Alors, c'est assez clair, je pense. C'est pas pour les beaux yeux de tout le monde qu'on fait ça. C'est bien précis. C'est pour aller chercher du financement. Puis également pour aller sonder la population, c'est sûr, là. Alors, je vous remercie encore.
Bon, merci, M. Beaulieu, pour votre bon travail. Si je comprends bien, on a des bonnes idées pour les 5 prochaines années.
Ah, que oui!
Merci. Oui. Le deuxième point à l'item d'hiver, c'est un radar dissuasif qui est installé à l'entrée nord du village. M. Côté?
Oui, bon, comme vous l'avez sûrement vu, on a fait finalement l'installation du radar il y a un peu plus d'une semaine. J'étais curieux de voir les résultats parce que on s'était prémunis d'une option qui permet d'enregistrer ou d'analyser le trafic qui passe devant le radar. Puis autant dans la direction rentrant dans le village ou en sortant aussi. Là, on peut avoir les deux statistiques. Vendredi dernier, même si ça faisait seulement qu'une semaine qu'il était installé, je me suis permis d'aller faire un relevé. Puis ce que j'ai vu, ben c'est quand même assez intéressant. Je ne sais pas si je peux partager mon écran peut-être pour vous montrer plutôt que balancer des pourcentages. C'est un peu difficile des fois à comprendre.
Ouais.
Jean-François, est-ce que tu peux m'autoriser à...
Oui, ce sera pas long. Les panélistes, allons-y. Ça devrait marcher, là.
OK, on y arrive. Voilà, c'est un peu ce que ça donne. Bon, je passerai pas à travers tous les tableaux, là, mais je voulais juste vous montrer, là.
Le tableau vient d'apparaître.
OK. C'est un premier essai. Là. Donc, ce qu'on voit ici, c'est du 28 mai au 4 juin, donc d'un vendredi à un vendredi. Ah. On voit que, vous voyez même que la grosseur des véhicules est séparée. Donc, on a des véhicules compacts ou même les camions. Si je regarde, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que dans les vitesses ici, vous avez ici la vitesse moyenne des véhicules sur la dernière ligne en bas.
Ouais,
et
ouais.
Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les camions ou les autobus, on voit que la vitesse est nettement inférieure au reste. Donc, les gros véhicules, c'est intéressant, on voit qu'ils ont ralenti. On voit que les véhicules moyennes pour cette semaine-là étaient, les vitesses moyennes, pardon, varient là, de 53, 55 ou 52 km/h. Fait que je trouve que c'est intéressant. Ici, cette colonne-là, le V85, c'est un peu un percentile, là, c'est-à-dire que 85% des véhicules qui ont passé étaient sous la vitesse que vous voyez ici, donc sous 62 km/h. Donc, bon, bien sûr, 15% étaient au-dessus, mais bon, je pense que c'est quand même assez bien pour au bout d'une semaine. Je pense que ça nous donne de l'information qui est vraiment là, complète. Je vais continuer un peu à étudier tous ces tableaux-là, là, mais... essayer de tirer parti là, de tout le data là, que cet appareil-là peut nous fournir. Je pense qu'on va pouvoir faire des choses vraiment produire des rapports qui vont être intéressants si on veut vraiment là, défendre les excès de vitesse. Puis fournir des chiffres aussi aux policiers, ça va nous aider, je pense, pour justifier nos demandes de la présence de policiers. C'est juste un petit aperçu que je voulais vous montrer, tout simplement.
Bon, merci, M. Gauthier. Merci. J'aurais bien hâte de voir les prochains mois, qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est vous, je sais pas.
Voilà, ça complète ce que je voulais dire, c'est tout. Il y aura des questions, je pense, j'en ai vu passer, mais on va attendre la période de questions, peut-être.
Oui, il va y en avoir, plusieurs, je pense. Là, on a vu ça passer. Je pense que ça fait 17 points en divers.
Oui, c'est terminé, point d'hiver, Jean-François.
Si vous permettez, moi, j'avais juste quelques petites questions que j'avais eues d'avance lors de la période de questions. On pourrait peut-être commencer par celle-là, puis peut-être y aller avec, comme on dit, le vif du sujet, là, parce que pendant la rencontre, j'ai regardé le défilé, les questions en cours de soirée, puis il y en a quand même beaucoup. Donc, moi, je pense que celle que j'avais... peut-être un peu moins long. En tout cas, on verra, là. En tout cas, fait qu'on peut commencer, si vous voulez, là. Je sais pas y aller avec Chantal après avec les questions du public en direct, là, ce soir. Fait qu'on va commencer. Justement, on vient de lâcher l'afficheur de vitesse. Il y avait une question par rapport à ça. Une question de monsieur Sébastien Morin. Bonjour, je vois que la machine étant l'afficheur de vitesse, là, je vois que la machine a été installée après le marche-plan. Dommage, car ce matin, encore des motos excessivement bruyantes à 80 km/h en face de chez moi. Lui, je pense qu'il est de l'autre côté, là, du côté sud. Il y a des enfants ici. Comment faire pour demander à la municipalité de réduire la limite de vitesse et ajouter des affiches? Là, pour votre bénéfice, tout le monde, le chemin royal, c'est 50 km/h actuellement. C'est quoi la réponse du conseil là-dessus? Je trouve que ça roule vite. De ce que je vois par rapport au courriel, c'est que je pense qu'il souhaiterait qu'on change la limite de vitesse sur le chemin royal.
Oui, mais vous comprenez, comme M. Côté l'a très bien expliqué, c'est un outil qu'on a qui va nous permettre de cumuler des statistiques à différents endroits de la municipalité. Ça va nous permettre de pouvoir modifier les vitesses, puis surtout d'envoyer la police là, s'il y a des abus. M. Côté, est-ce que vous avez des choses à rajouter?
Non, c'est sûr que oui, on va le déplacer. On ne peut pas le déplacer toutes les semaines. Vous avez vu un peu le genre d'installation, là. Il y a des normes en hauteur et tout ça, donc ça se déplace pas là comme facilement. Mais le but, oui, c'est ça, c'est vraiment de faire un échantillonnage à quelques endroits clés dans le village. Il fallait commencer à un endroit, on a choisi celui-là à l'entrée. On s'est dit que cet été, avec les travaux qui s'en viennent, ça va être plus difficile de circuler rapidement là, à travers là, les travaux. Peut-être qu'il y aura lieu, comme M. Bouchard a mentionné tantôt, dans l'avenue Orléans, là, il a noté une circulation plus intense. Peut-être qu'on ira là aussi. Je sais pas, le conseil va se pencher là-dessus aussi. On va décider tous ensemble de la façon d'échantillonner. Là. Mais pour débuter, je pense que c'était un bon endroit là, à l'entrée du village.
Là. Merci. Monsieur Labbé?
Oui, autre question. Ça m'est arrivé tantôt en après-midi. Monsieur, encore une fois, Yvon Les Tourneaux. Arpenteur géomètre, question au niveau du règlement de lotissement. Peut-être que la conclusion va être de l'envoyer à la MRC, mais c'est une question qui pose à Simon Lemieux, mais qui monsieur Létourneau nous demande d'en parler, a demandé, je pense, à toutes les municipalités d'en parler ce soir, là. Donc, question adressée à Simon Lemieux, l'urbaniste de la MRC. Avez-vous l'amabilité de m'informer concernant le nouveau règlement de lotissement à propos de certains aspects de ce dernier? Je m'adresse à vous à la suite du refus de M. Simon Lemieux, urbaniste de la MRC, qui prétend que c'est l'obligation de la municipalité de me répondre. Donc, je reformule donc les deux questions. En territoire rénové cadastralement, Île d'Orléans, est-ce que votre règlement de lotissement va traiter des demandes de l'eau transitoires qui sont inférieures en superficie et en dimension aux exigences du règlement? Ça, c'est la première question. Deuxième question,
Est-ce qu'il doit traiter de l'immatriculation cadastrale en copropriété verticale ou en horizontale? Ça, on l'a traité tantôt. Est-ce que vous avez une réponse à la question numéro 1?
Je tente de comprendre la question. Si je comprends bien, est-ce qu'on peut intervenir puis utiliser des dérogations mineures pour les terrains qui ont moins de 3000 mètres carrés? Est-ce que j'ai bien compris?
C'est ce que je comprends aussi, là.
On va dire, moi, je pense que oui, la municipalité peut accepter d'analyser des demandes de dérogation mineure pour des superficies. Ça nous est arrivé il y a déjà plusieurs années, là, je ne me rappelle pas quelles étaient nos décisions. Mais concernant le lotissement horizontal, moi, je pense qu'à l'île d'Orléans, quand on connaît les dimensions nécessaires pour les systèmes d'assainissement des eaux, ça prend souvent 2 ou 3 000 mètres carrés. Donc, vous comprenez que le lotissement que je peux appeler horizontal est vraiment compliqué. Le lotissement vertical, que je traduis un lotissement en hauteur, j'ai pas d'idée là, de quelle façon on pourrait traiter ça. Actuellement, on sait que l'urbaniste est informé de la situation, puis on va travailler ça avec lui.
Parfait. Ça, c'était la question de M. Letourneau. Moi, de mon côté, il m'en restait une. Quatre questions, en fait, de Mme Renée Dupuis. Donc, c'est arrivé ça ce soir, là, un petit peu avant la rencontre. Donc, question pour le conseil municipal. Quand la réunion de consultation publique qui devait avoir lieu en mai sera tenue? Donc, on parle de la rencontre là, de consultation sur le projet d'assainissement.
Oui, monsieur le projet d'assainissement, vous comprenez, ça fait longtemps qu'on espère tenir cette assemblée-là. On a toujours attendu après différentes informations. Premièrement, on attendait le contracteur, on attendait le montant, on attendait des permissions des différents ministères. Là, on a presque toutes ces informations-là. Donc, on est vraiment à planifier la date pour la séance de consultation publique sur ce projet-là. Puis, soyez assurés là, que c'est notre priorité.
Question numéro 2, toujours sur le même objet. Quel est l'échéancier des travaux pour l'assainissement des eaux? Quand sera-t-il rendu public?
Autrement dit, pour être précis sur cette question-là, et on vous invite à venir à la séance de consultation publique qui va être annoncée très bientôt. Donc, à cette assemblée-là, les représentants des ministères, le contracteur, les ingénieurs, puis bien sûr les représentants de la municipalité vont être capables de répondre, on l'espère, à l'ensemble des questions qui vont être posées. Vous comprenez que l'horaire des travaux, c'est bien sûr le contracteur lui-même qui le planifie. Ça dépend du nombre d'équipes qu'il va mettre en place. Donc, ça va être répondu lors de la séance publique d'information.
Question numéro 3, quelle est la date, c'est un peu dans le même lien, là, quelle est la date du début des travaux? Par où commenceront ces travaux-là?
C'est ça, donc c'est la même réponse, vous comprenez, là, c'est en discutant avec le contracteur qu'on va pouvoir déterminer la date du début des travaux, puis bien sûr, sa stratégie là pour les travaux.
Une dernière, de la part de Mme Dupuis, est-ce que des fouilles archéologiques sont prévues sur le tracé du parcours relativement à la présence d'artefacts autochtones par la municipalité, la MRC ou le ministère des Affaires culturelles?
Oui, il y a eu un mandat de recherche archéologique, M. Labbé, qui a été donné il y a plus qu'un an sur le tracé du réseau sous le chemin public. Il va y avoir une autre demande normalement qui va être commune pour toutes les résidents qui vont être desservis par le réseau. Donc, si par exemple, il y a 100 portes, il va y avoir les 100 demandes vont être déposées en même temps pour obtenir l'autorisation du ministère de la Culture et d'intervenir si on découvre des artefacts.
Parfait. Moi, c'est des questions qu'on avait eues avant la rencontre. Là, il y a les questions pendant la rencontre. Là, je vais faire une passe sur la palette à Mme Blouin qui, je pense, a été occupée ce soir.
Oui, Mme Blouin.
Alors, bonsoir, vous m'entendez bien?
Oui, très bien, merci.
Parfait. Alors, on part pour le bénéfice des gens qui se sont ajoutés au fil de la rencontre. Est-ce que vous pourriez nous répéter, s'il vous plaît, la réponse de Madame Lee nous a adressée par rapport à l'échéancier des nouveaux règlements, le projet, la refonte des règlements? Donc, pour le bénéfice de ceux là qui se sont ajoutés.
Oui, exactement. Donc, on avait planifié une étape importante en juin, autrement dit, dépôt d'un avis de motion et acceptation d'un premier projet de règlement en juin. Mais suite aux dernières discussions, bien sûr, qui ont été favorisées par les questions des citoyens, on met le projet sur la glace. Il va y avoir au moins une, peut-être plus qu'une autre réunion des élus pour analyser les différents scénarios qui ont été proposés. Donc, il n'y a pas vraiment de date butoir, mais c'est clair que ça va déborder à la fin de l'été.
Parfait, merci beaucoup. Monsieur François Courville, alors bonsoir à tous. J'aimerais que le Conseil reconnaisse publiquement avoir reçu une demande signée par la totalité des résidents de notre actuelle zone demandant le maintien des normes actuelles de zonage pour notre secteur. Cette lettre était aussi une demande officielle. Merci, Monsieur Courville.
Comment dire, c'est clair, on peut adresser la demande à Monsieur Labbé. Actuellement, on a reçu une demande de Monsieur Courville qui a été distribuée à chacun des élus et Monsieur Labbé. Donc, on peut faire une accusé réception, Monsieur Labbé, de ce
document. Excusez, Monsieur Noël. Moi, de mon côté, vous l'avez reçu. Je peux pas attester rien. On l'a pas eu nous autres à la municipalité.
Ok. Donc,
je pense que c'est quelque chose qui a été donné explicitement aux membres du conseil. Là. Moi, j'ai pas vu passer ce document-là.
Ok. Dans ce cas-là, moi, je pourrais trouver mon document. Puis le transmettre à la municipalité. Fait que si je comprends bien, M. Courville l'a transmis en main propre, en tout cas à moi personnellement, ça je me rappelle. OK? Puis s'il veut obtenir un accusé réception de ce document officiel, bien sûr, ça serait une très bonne idée qu'il l'adresse à la municipalité, puis on va y transmettre un accusé réception.
Parfait, merci beaucoup. Madame Charon.
Je pense aussi ce que je... Ah, excuse-moi, Chantal.
Non, vas-y,
je voulais juste renchérir, c'est que, nonobstant tout ce que... Il y aurait eu 250 personnes qui auraient signé le document, la demande. Je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter, on prend la demande au sérieux, même si ça venait juste d'un seul citoyen.
Oui, pas
de doute. Je voulais juste répéter que cette demande-là, on la prend au sérieux, même si il y avait un citoyen qui la faisait.
Ouais, merci, M. Michel.
Parfait, merci. Madame Esther Charon, la question va comme suit. Quel est le calendrier détaillé des travaux du projet d'assainissement des eaux usées d'ici, pour cet été?
OK. Donc, autrement dit, le travaux va être déterminé avec le contracteur. Ce soir, nous avons autorisé la signature du contrat avec le contracteur. Donc, à la prochaine rencontre avec le contracteur, puis bien sûr, à la rencontre de consultation publique qui est prévue dans les prochaines semaines, on aura toutes les réponses à ces questions-là.
Parfait. Madame Renée Dupuis, est-ce que la taxe à payer pour chaque unité va porter seulement sur la partie des travaux d'assainissement ou si ses propriétaires devront payer aussi la partie de réfection de la route qui va profiter à tous les propriétaires de la municipalité?
Est-ce que M. Côté veut répondre avant moi ou je vais? Oui, M. Côté, je vais laisse la
parole. Oui, je peux faire un premier commentaire. Donc, dans la répartition des coûts, il y a eu un protocole d'entente qui a été signé conjointement avec le ministère des Transports puis notre partenaire financier, le ministère des Affaires municipales. Donc, la réfection de la route est à la charge du ministère des Transports qui prend aussi soin des trottoirs du village. Ça, c'est clairement indiqué là, dans les documents qu'on a reçus. Donc, ce que la municipalité paye, ben c'est l'excédent là, de la subvention du MAMH parce que c'est lui qui paye la grosse partie de la facture concernant le réseau des eaux usées. Donc, c'est cette portion-là excédentaire là, qui va être répartie selon là, le règlement d'emprunt là, qu'on a approuvé tout à l'heure. Je sais pas si j'oublie quelque chose ou si c'est assez clair, là, mais...
Je peux renchérir peut-être, Jean, peut-être expliquer aussi durant toutes les nombreuses années que ce projet-là roule, tout l'argent qui aurait pu bénéficier à l'ensemble des citoyens de Sainte-Pétronille, des subventions qu'on a eues qui auraient pu faire des projets pour l'ensemble de Sainte-Pétronille ont été utilisés pour ce projet-là de l'assainissement des eaux usées. Donc, il y a beaucoup d'argent qui a été pris pour l'ensemble des citoyens pour l'étude qui a été utilisée pour ce projet-là. Hein, si je ne me trompe pas, c'est ça, monsieur? Oui.
Madame Benoît, est-ce que ça répond aux questions, là, les deux interventions que vous avez?
Oui, je croirais que oui, oui, oui.
Merci.
J'avais une autre question, en fait, qui est un peu dans le même sens, adressée par Madame Charon. Quel sera le coût annuel imputé aux utilisateurs payeurs du nouveau réseau d'assainissement des eaux usées, celui taxé aux autres citoyens?
C'est-à-dire que la facture, je me lance de ce côté, la facture va être répartie entre les utilisateurs et l'ensemble des citoyens. Vous comprenez que les bâtiments qui sont publics vont être supportés par l'ensemble des citoyens, alors que chacune des connexions individuelles des maisons là va être payée de façon individuelle. La répartition est la suivante. 95% des coûts totaux vont être supportés par les utilisateurs, ceux qui sont directement connectés au réseau, et 5% vont être supportés par l'ensemble des citoyens de Saint-Pétronille.
Parfait. Merci. Madame Charon adresse la question suivante. À quand la science d'information sur le projet promis depuis des années, y aura-t-il lieu avant le début des travaux? Donc, c'est la rencontre là, qui s'en vient ultimement. Là.
On planifie. Ouais, c'est ça. Merci.
Parfait. Madame Lynn Gosselin. Merci de sursoir à l'adoption des projets de réglementation d'urbanisme et je me permets de demander la tenue d'une séance d'information publique sur le sujet afin de faire part de transparence et de bien informer les citoyens des changements, ce qui semble être votre volonté exprimée ce soir.
C'est vrai. Autrement dit, vous comprenez que si les normes sanitaires nous permettent une réunion publique dans les prochains mois, c'est clair qu'on va favoriser ça, là. C'est beaucoup plus facile à traiter en grand groupe. Mais actuellement, M. Labbé l'a expliqué, en mode pandémie, en mode COVID, on est obligé de fonctionner par question, ce qu'on a obtenu au cours de avril et mai dernier.
Parfait. Madame Goulet, vous annoncez une réunion d'information, mais les 100 propriétaires touchés n'ont jamais été consultés. Ils doivent assumer la totalité, le 2 à 3 millions. Je me pose là, comment se fait-il que nous n'avons jamais été consultés? Il est surprenant que vous seul avez décidé que de nous engager pour les 25 années à venir.
Le mot « moi seul », là, c'est clair que ça ne tient pas la route. C'est l'ensemble du conseil municipal, c'est les ingénieurs, c'est les intervenants des différents ministères. Vous comprenez que ce projet-là roule depuis 2003. Tout le monde a été informé d'une façon ou d'une autre de ce projet-là. Puis ça a été un genre de négociation qui n'a jamais arrêté, autant avec les ministères, les ingénieurs et les vendeurs de services, pour en arriver à la séance d'information publique là, qu'on planifie.
J'aimerais juste faire quelques pas en arrière pour rappeler à tout le monde, c'est probablement de l'information que le monde savent déjà, mais la loi Q2R22 là, sur les eaux usées a été votée au mois d'août 1981, donc il y a 40 ans. Donc, il y a 40 ans, le gouvernement a décidé que c'était interdit de rejeter des eaux usées dans des cours d'eau, que ce soit un fleuve, un cours d'eau, un ruisseau, peu importe. Ça fait 40 ans qu'il n'y a rien qui s'est fait dans le village. Je pense que moi, je suis content qu'il se passe quelque chose. Puis quand enfin on applique le règlement, parce que c'est le devoir de la municipalité d'appliquer le règlement sur les eaux usées. Fait que les options qu'on avait, c'était d'obliger chacune des maisons à se mettre conforme. On sait que ça aurait été difficile pour beaucoup d'entre elles. Puis la réflexion a été là-dessus. On a voulu construire un projet collectif qui allait d'abord se conformer au règlement, évidemment, mais pas juste par souci d'être conforme à la loi, mais pour protéger aussi l'eau potable, qu'on puisse tout le monde à peu près à la même place, on s'entend, hein, c'est un nappe phréatique, là, est là pour tout le monde. Donc, je pense que ce projet-là, c'est pas juste nous en tant que conseil aujourd'hui devant vous, mais ça s'est fait, comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, depuis plusieurs années. Puis je pense que je vais exprimer une opinion qui reflète pas celle du conseil nécessairement, là. Donc, j'engage pas les autres conseillers, mais je pense que Puis je veux pas mettre la faute sur d'autres, là, mais je m'explique mal comment ça que ça s'est pas fait avant. C'est juste ça. Ça me surprend encore qu'on ait pu tenir 40 ans dans l'illégalité comme ça. Ça m'étonne. Puis c'est pour ça que je suis fier aujourd'hui de qu'on sait que dans les semaines qui s'en viennent, là, ce projet-là va enfin voir le jour. Je suis vraiment content de ça.
Merci pour les précisions pertinentes, M. Beauté. D'autres questions, Mme Blouin?
Madame Laflamme.
Je voudrais peut-être juste préciser un point, que si on parle avec tous les membres du conseil, seulement un des membres du conseil va bénéficier du système d'eau, ben, d'égout. Et je pense que tous les membres du conseil, on aimerait tout seul l'avoir, mais seulement un des membres va l'avoir. Fait qu'on n'a pas fait ça pour le conseil, mais bien pour la population.
Oh, c'est faux. Merci, Marie-Claude.
Merci. Madame Lynn Gosselin adresse la question suivante. Y a-t-il une intention du conseil et un échéancier prévu pour assurer que des normes architecturales, le PIIA, se concrétisent afin d'assurer une bonne intégration et restauration des nouveaux bâtiments dans notre village, assurant la préservation de la qualité de notre environnement villageois?
Madame Gosselin, actuellement, on est dans un processus d'harmonisation des règlements des 6 municipalités de l'île d'Orléans. C'est clair que le document PIA, qui est déjà rédigé en grande partie à Sainte-Pétronille, deviendra possiblement un plan B pour l'améliorer. Mais pour le moment, on s'est entendu entre les maires de l'île d'Orléans là, qu'on appliquerait premièrement un règlement harmonisé à l'île.
Parfait, merci. La prochaine question adressée.
Oui, je voudrais rassurer là-dessus. Par contre, lors de nos CCU, on utilise quand même ce document-là pour nous aider à prendre des prises de décision. Fait que, on s'en sert comme outil pareil là, lors des travaux de rencontre de CCU.
Oui, merci.
Merci. Alors, M. Boivin adresse la question suivante relativement au projet d'assainissement des eaux. Donc, la différence de coût du projet d'assainissement en comparaison avec celui de référence à Saint-Laurent, réalisé il y a seulement 5 ans, est de 2,5 fois supérieure. Saint-Laurent a coûté 9,5 millions pour 2,5 kilomètres, alors que celui de Sainte-Pétronille est de 15 millions pour 1,5 kilomètres. Si on enlève le 30% de réserve, l'augmentation est de 2 fois supérieure. L'environnement de Saint-Laurent est comparable à celui de Sainte-Pétronille pour ce qui est des distances creusées dans le roc. Pourquoi il y a tant de différences entre les coûts des deux projets? S'il vous plaît, donnez des éléments quantifiables et comparatifs entre les deux projets pouvant justifier l'augmentation pour plus du double.
Premièrement, je peux vous dire que le projet de Sainte-Pétronille se compare difficilement avec celui de Saint-Laurent. Deuxième point important, tout le monde sait que le sous-sol à Sainte-Pétronille, le roc, là, comme on dit, là, est vraiment moins friable que dans les autres municipalités de l'île d'Orléans et on croit que c'est ça qui a influencé les soumissions qu'on a obtenues. Donc, vous comprenez, le meilleur baromètre pour savoir ce que ça coûte, là, le projet d'assainissement des eaux, c'est bien sûr d'aller en appel d'offres comme on a fait et obtenir les soumissions. Puis on est rendu à cette étape-là.
Je sais pas si je peux me permettre un commentaire là. Ça me vient comme ça, là. Peut-être que ça n'a pas rapport, mais en tout cas, je le soulève quand même. Là. À Saint-Laurent, c'est des étangs aérés. Puis nous autres, on a un réacteur Bioness parce que dans le fond, les étangs aérés, l'option avait été discartée
très longtemps
dans le projet. Là, il y a longtemps qu'on n'avait pas, on avait rejeté cette option-là parce que bon, premièrement, on n'avait pas de place pour les mettre. Puis la façon que la municipalité est considérée, là, je ne peux pas comparer les deux parce que j'ai pas fait l'exercice, là, mais je pense qu'un étang aéré va être moins onéreux à construire que le réacteur qu'on est sur le point d'installer. C'est ce que je pense, mais j'ai pris ça dans ma tête et non dans des études que c'est ça. Fait que, mais c'est un peu ça qu'on a toujours dit, que des étangs aérés coûtent un peu moins cher, mais c'était pas possible ici, là.
OK. Puis je complète la réponse, M. Labbé. C'est que j'inviterais M. Boivin à comparer les coûts du projet de Saint-Laurent avec celui de Saint-Pierre. Vous allez voir qu'il y a encore des écarts qui sont vraiment durs à expliquer. Monsieur Côté, vous vouliez intervenir, oui?
Bon, ben, juste peut-être une petite précision pour le bénéfice de ceux qui l'ont jamais entendu, là, mais je vais juste résumer un peu, en gros, le fonctionnement du système. Donc, on sait qu'on va faire la collecte des eaux usées de chacune des maisons. Tout ça va descendre gravitairement jusqu'à l'anse au canot. De là, ça va être repompé sur les terrains de la municipalité, donc ou les terrains de tennis. Et puis, le traitement va se faire là. Puis l'eau doit être retournée ensuite, une fois traitée, au fleuve. Donc, il y a plusieurs allers-retours. Fait que si on additionne toutes ces longueurs-là, on tombe avec quelque chose qui est plus long que Saint-Laurent. Fait que je sais qu'on va creuser juste une fois pour installer les trois tuyaux, mais quand même, il y a une certaine complexité aussi. Il y a une deuxième station de pompage qui va être aussi installée dans les rues Gagnant-la-Flamme, qui va venir, elle aussi, pousser là, ces eaux usées-là dans le réseau. Donc, je pense que chaque système doit être unique et particulier. Il a ses particularités et ses coûts là, inhérents aussi. Puis, comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, on a eu 4 soumissionnaires qui étaient, bon, les 3 à 14 millions, puis 1 à 12 millions. Je pense que ça aurait été difficile d'avoir moins cher là, que ça. On peut même se compter chanceux, je pense.
Ouais. Merci.
Merci Madame beaucoup. Ouais. Alors, on se tourne du côté des prochaines élections générales. Alors, la question adressée par Mme Esther Charron. La municipalité peut voter une résolution permettant à tous les citoyens de voter aux élections par correspondance si elle le souhaite, pandémie ou non. Ce règlement existait déjà dans la loi électorale avant la pandémie, ce qui est d'ailleurs une excellente idée. Alors, pourquoi se limiter à un règlement en période de pandémie?
Monsieur Lapé?
En fait, oui, ce que Madame Charron soulève est vrai. Là, c'est la municipalité peut faire la résolution aussi pour tous les citoyens, même hors pandémie. Mais généralement, c'est sûr que c'est pas écrit dans la loi là, nécessairement. Ce que je vais répondre là, mais à l'usage des municipalités qui utilisent le vote par correspondance, là on est hors pandémie. Là, on est vraiment dans une situation normale. C'est des municipalités qui ont beaucoup de non-résidentiels, c'est-à-dire des gens qui ont des propriétés, exemple, à Saint-Pétronille, mais qui demeurent à Montréal ou peu importe où, là, à l'extérieur de la province ou du pays, puis que pour eux, c'est très difficile d'exercer leur droit de vote. Il me vient une municipalité en tête là, parce que bon, je connais quelqu'un qui avait un terrain dans ce coin-là, de Titrivière-Saint-François là. Pour bon, cette municipalité-là a beaucoup de non-résidentiels là. J'ai pas le pourcentage, mais c'est assez élevé. Eux autres, ils ont fait cette résolution-là pour essayer d'avoir un taux de votation qui est respectable, parce que sans ça, les non-résidentiels disaient ben ça va être trop compliqué, commencer à monter là, voter et tout ça. Donc, c'était pour faciliter ça. À Sainte-Pétronée, les non-résidentiels, il y en a très peu. C'est beaucoup de résidences permanentes. Je ne dis pas qu'il y en a une petite proportion, mais généralement, c'est des gens qui demeurent ici à l'année. Et c'est une municipalité qui a une très petite superficie. La mairie est à peu près à 3 minutes en auto de partout au niveau de la municipalité. Fait que physiquement, en plus, on n'a pas de grande distance à faire pour se rendre à la municipalité. Donc, c'est un peu pour ça qu'on n'en a pas fait les autres années. Parce que c'est sûr que le vote par correspondance, il y a un coût qui est rattaché à ça. Il y a des procédures aussi supplémentaires à faire dans un contexte en élection qui a déjà beaucoup de procédures à faire versus le staff qu'on a puis tout ça. Fait que, organiser votre par correspondance, c'est encore des coûts puis des opérations supplémentaires pour en réalité peut-être que le besoin est peut-être pas si criant que ça. Là, je parle en temps normal. Parce que votre par correspondance, c'est ça, c'est pour permettre aux non-résidentiels de voter et non à ceux qui veulent aller en Floride. Ben, regarde, je vais aller en Floride puis je vais pouvoir voter de la Floride. C'est pas pour ça que c'était instauré là. C'est vraiment pour les non résidentiels, de leur donner une chance, de leur donner une voix pour pouvoir voter. En tout cas, c'est en parlant avec des collègues là, avec les années là, de d'autres municipalités, que c'est comme ça que généralement là, c'est géré. Mais ça, la municipalité peut le décider à un moment donné de le faire un jour ou l'autre. Là, c'est quelque chose qui peut revenir à chaque élection générale. La décision peut se prendre. Là. Fait que si jamais le conseil est en place dans quelqu'un décide d'y aller de l'avant, ça pourra toujours se faire, mais généralement, c'est ce que je viens d'expliquer là. Normalement, c'est ça sert à ça.
Merci, M. Labbé.
Juste pour faire du pouce sur la réponse de M. Labbé, Mme Charron, quand un petit peu précise ou amène des éléments additionnels qui se lient comme suit. Le tiers des résidents quitte la municipalité à l'automne pour le sud ou ailleurs. Et même si c'est une minorité, on devrait encourager la démocratie et le droit de vote, peu importe le trouble de la municipalité. Mais oui, justement, ce serait une pratique démocratique exemplaire de permettre à tous nos résidents de voter à chaque élection. Alors, c'est un complément d'information. Je ne sais pas si vous souhaitez donner un élément de réponse.
On est bien d'accord avec ça.
Parfait. J'essaie de retrouver où j'étais. Désolée. Oui. Alors, Madame Marie Gosselin. Les municipalités bénéficient d'une part du remboursement des taxes qu'elles doivent payer lors de l'octroi de contrat. Comment le remboursement de ces taxes, montant significatif, associé aux importants contrats que la municipalité s'apprête à accorder dans le cadre du projet d'assainissement, est-il pris en compte dans le montant résiduel qui incombera aux citoyens?
La réponse est oui. Dans les calculs, il y a seulement les taxes nettes qui sont calculées. Les taxes qui sont remboursées ne sont pas incluses dans les calculs.
Parfait. Toujours en lien avec le projet et les dollars, quand Madame Charron pose la question suivante. Quand la municipalité prévoit-elle rendre public le budget détaillé du projet d'assainissement des eaux usées?
Ça pourra faire partie de vos questions lors de la séance publique d'information.
Parfait. Monsieur Boivin adresse la question suivante en lien avec le projet d'assainissement des eaux. Est-ce que les décisions du projet d'assainissement ont été confiées entièrement aux firmes d'ingénieurs étant donné l'incompétence de la municipalité en cette matière? Est-ce que la municipalité de Saint-Laurent a été consultée ou mise à contribution compte tenu de leur expérience récente en cette matière et de la complexité des ententes de protocoles avec une multitude d'organismes?
Monsieur Boivin, c'est une question qui n'est pas sérieuse, je n'y réponds pas.
Une autre question de M. Boivin qui va en lien avec les comptes à payer. Pouvez-vous détailler ce que Englobe a fait pour 12 647,25? Il y a eu des travaux concrets, un rapport concret qu'on peut consulter?
M. Côté?
Le 12 000 $ a servi à faire le devis là, pour nous permettre d'aller en appel d'offres pour la réfection de la rue, tout simplement. C'est les prix normaux qu'on paye pour la réfection des rues. Là. Je sais pas quoi dire donc là, exactement, là, mais on a demandé à des ingénieurs de faire un travail, donc on doit les rétribuer. Là, c'est tout simplement.
Si je me trompe pas, ils doivent calculer la grandeur, l'épaisseur, la sorte de sphalle, les détails du sol dans ce coin-là. Ils doivent
avec un document comme ça, ça nous permet d'aller précisément en appel d'offres. Puis les soumissionnaires vont soumissionner sur quelque chose de tangible et d'équitable pour tout le monde. Sans un document comme ça, on va nous dire « oui, je vais te la refaire ta rue, mais elle va être faite comment? » Parce que là, c'est normé. On a des critères précis sur lesquels on va avoir des prix précis aussi. Donc, le travail d'ingénieur qui a été bien fait puis qu'on doit payer tout simplement.
Voilà. C'est des frais qui sont courants. Tous les projets... que les appels d'offres qu'on a fait, puis les projets le Romain qui a de l'envergure un peu, il y a eu des frais d'ingénierie rattachés à des pleins de vie, puis de l'encadrement qu'on a eu pour aller en soumission pour ces projets-là. C'est quelque chose qui est monnaie courante là, justement, tu sais, pour nous aider là, parce qu'on n'est pas tout le temps compétent là.
Ben, c'est ça, comme on n'est pas compétent dans tous ces domaines-là, il faut engager des gens qui le sont. comme vous suggériez plutôt, M. Boivin. Donc, c'est ce qu'on fait dans ce cas-là précisément. Ouais,
quand tu n'es quand pas compétent, tu engages du monde compétent. Pour nous aider là-dedans.
Pour Mme Blouin.
Oui. Alors, combien de réponses reçues sur la politique familiale?
M. Boulay. Je ne sais pas si on n'a pas perdu M. Baudet. M. Baudet, au début, avait donné des statistiques là, sur la proportion. Oui. Une proportion importante de gens de Sainte-Pétronille qui avaient répondu, mais le nombre exact, là, je les ai pas pris en note.
Je pourrais vous donner des chiffres. C'est qui demande ça? Là?
C'est Mme Dupuis.
Bon, Mme Dupuis, je pourrais consulter tous les archives que j'ai reçues et donner le nombre exact si vous me donnez la permission. Ce soir, je ne l'ai pas. J'ai ça dans les notes. À ce soir, c'était seulement un préliminaire.
OK.
Comme j'ai mentionné.
Parfait, merci. Monsieur Morin a adressé une question par rapport à la vitesse. Je vous avoue, bon, il m'a déjà signifié qu'il quittait la rencontre vu l'heure. Je voulais quand même toutefois vous l'adresser. Alors, ça dit pourquoi ne pas diminuer la vitesse à 30 km/h de plus? Il faudrait un radar de l'autre côté entre les rues Duquet et Orléans, les grands oubliés de la plupart des initiatives de la municipalité. Que pouvons-nous faire aussi pour le vacarme des motos? Merci.
OK, c'est clair que, comme on l'a déjà dit, le radar dissuasif va être déplacé. Puis soyez assurés, monsieur Morin, là, qu'on va essayer d'avoir des informations sur la vitesse dans votre secteur. Puis s'il faut intervenir, on va le faire.
30 km heure, c'est sûr qu'il faut, en tout cas, je pense qu'il faut analyser ça comme il faut, parce qu'un coup que la vitesse va être réduite, 30 km heure, c'est peut-être sécuritaire, mais faut voir aussi, est-ce qu'on crée un autre problème à l'autre extrême à ce moment-là, là, c'est toute la question là, qu'il faut se poser, moi je pense. On a un outil qui collige des données, mais ce côté nous l'a montré tantôt. Peut-être que l'idée d'un deuxième radar, on pourrait peut-être s'en reparler. Ça peut être une option, peut-être envisager de les mettre aux deux extrémités, puis là, bon, on aurait vraiment un portrait encore plus précis. À voir.
De ce côté, oui.
Je pense que c'est une question qui revient souvent, là, le problème de vitesse dans le village. Puis, je pense qu'il y a une réponse. Là, c'est qu'il y a des policiers qui sont engagés pour ça, qui sont formés pour ça, qui doivent faire le travail. Ce qu'on fait de notre part là, pour les aider, c'est justement avec l'outil qu'on s'est procuré, c'est de leur donner de l'information, de leur dire, regardez, c'est vrai là, qu'on a ça, on va avoir des données qui vont être validées. On va pouvoir dire aux policiers, mais regardez, venez plus souvent. On peut même savoir à quelle heure, quel jour, on peut pousser là, cette machine-là assez loin là, pour avoir des informations précises. Moi, je pense que dans un premier temps, on serait mieux d'aller vers ça puis d'appliquer les règlements qui sont déjà en vigueur. Parce que même si on les baisse à 30, qui va surveiller que les gens vont circuler à 30? Ça reste toujours le même problème. Là. C'est peu importe le règlement qu'on fait, il faut s'assurer de le faire respecter.
Voilà.
Comment on fait ça? Ben là, c'est l'outil qu'on a acheté pour essayer d'aider les policiers dans leur travail à respecter la réglementation actuelle. Donc, moi, c'est l'avis que j'ai là-dessus. Non?
Merci.
Je veux renchérir aussi. Oui. Moi, je pense que 30 km, c'est pas vite. Si on respecte 50 km, c'est très bien. Est-ce qu'on va punir 85 % du monde qui respecte le 50 ou 15 % du monde qui respecte pas le 50? Je pense que le travail est aux policiers de faire sur le 15 % qui reste.
C'est beau, merci.
Ben, Marie-Claude.
Ben, le radar, c'est vraiment pour gérer la vitesse, mais dans la question, monsieur aussi, il y a les bruits de la moto. Là, le radar ne va pas gérer les bruits de moto, que ce soit à 30 ou 50, les motos vont faire du bruit quand même. Ça, c'est vraiment pas une question à la municipalité de gérer ça, mais plus à la MRC. Il n'y avait pas à la MRC, mais au poste de police, il y a quelques années, il avait engagé quelqu'un pour gérer les motos. Si les citoyens font des plaintes, ça va être à eux, encore une fois, de gérer ça, et non à chaque municipalité de gérer.
Merci, Mme Lafemme. Pertinent, oui.
C'est bon?
D'autres questions, Mme Blouin?
Alors, Mme Lynn Gosselin adresse ses remerciements à M. Beaulé pour toute la communication qu'il nous a faite du projet MADA, la forte participation des citoyens au sondage de la MRC, nous fait une belle démonstration de la participation citoyenne lorsqu'elle reçoit de l'information.
Bravo.
Alors, Madame Lié m'a adressé un mot tout à l'heure comme quoi elle souhaitait quitter, mais je trouve quand même intéressant là d'adresser les questions pour le bénéfice. Et je disais que on lui reviendrait avec les réponses là dans un autre temps. Alors, elle revient avec l'afficheur de vitesse. Vitesse inclut la zone de 30 km dans celle de 50 et elle précisait plus clairement, les statistiques de vitesse moyenne sont pour les zones 30 et 50 km heure?
Pour les zones 50 seulement, là?
C'est 50.
Seulement. Si je peux préciser là-dessus, l'appareil est programmable. Donc, à l'endroit où on l'a installé, la limite est 50 km heure. Donc, ce qui dépasse 50, si on est à 50 ou 52, on va voir un petit bonhomme sourire. Si on dépasse ça, mais là, petit bonhomme est moins content. Si on installe la machine dans une zone de 30 km heure, par exemple, comme dans la rue Orléans ou ailleurs, ben, il faut faire une reprogrammation d'appareil pour justement avoir les bons signaux, pour la bonne information doit être donnée aux automobilistes. Donc, ça prend pas en compte. Lui, il sait pas où vont les autos après, là, mais je veux dire, on le programme pour la zone où on l'installe.
Merci.
Parfait, merci. Alors, Madame Marie Gosselin adresse une question dans le projet d'assainissement des eaux. Il est présumé que différents scénarios ont été évalués avant que le Conseil en arrive à retenir que 95% de la portion non subventionnée du projet d'assainissement sur lequel les bénéficiaires ne seront pas consultés incomberait aux propriétaires bénéficiant du service d'assainissement des eaux usées. Quand et comment le Conseil compte-t-il expliquer la démarche empruntée, les scénarios considérés et le rationnel derrière cette répartition 75% versus 5%? Peut-on espérer que ces informations seront présentées lors de la rencontre d'information?
Monsieur Côté, est-ce que je vous laisse commencer?
OK, bien, le calcul, là, Monsieur Labine a parlé un petit peu tantôt là, dans le cadre du projet de règlement d'emprunt, là. On a demandé à nos ingénieurs aussi de nous fournir des quantités là, je me rappelle pas du terme exact, là, mais les débits, c'est ça, je pense on a pris le débit type là, pour une maison, ce qui correspond à une unité. Puis de cette façon-là, on a additionné les unités. Et puis on a un nombre total là, de, je pense, environ 111 unités là, pour le réseau, là, aux dernières nouvelles, mais il va peut-être y avoir des changements d'ici là, mais bon, si on dit qu'on a 111 unités, c'est très simple. On divise ce nombre-là par le pourcentage. Bon, il n'y a aucune... La question avait déjà été posée à la dernière séance, là, c'est que les bâtiments principaux, publics, c'est-à-dire la mairie, le centre communautaire, ont des unités attribuées à eux aussi. Puis c'est ces unités-là qui vont être reparties à l'ensemble de la population. Donc, on a simplement là, fait des calculs mathématiques, tout simplement, là, encore une fois, confirmés par nos ingénieurs aussi, là-dessus. Et puis, non seulement les usagers ou les utilisateurs, bon, peut-être ils se considèrent pas consultés, mais c'est de même pour l'ensemble de la municipalité. Donc, il y a personne qui a été là lésé là-dedans. Là. Tout le monde est au même niveau, là. Que ce soit parce que les gens, bon, je vais me prendre un exemple, là, j'habite dans la rue des Pins-Nord, j'aurai pas le réseau usé, mais je vais en payer une partie pour la mairie, le centre communautaire. Bon, on n'a pas été consulté plus, là, les gens de la rue des Pins-Nord ou qu'on habite sur la rue La Flamme, sur le chemin royal au bout de l'île ou la rue des Hêtres ou peu importe où. Tout le monde est dans le même bateau, là. Ces informations-là s'en viennent comme on l'a mentionné tantôt. On ne pouvait pas faire de réunion avant d'avoir quelque chose à dire aux gens. Et ces questions-là que vous nous posez, vous nous les auriez posées à ce moment-là puis on n'aurait eu aucune réponse. On n'aurait pas été avancé. Donc, c'est pour ça que la réunion tarde un peu, je suis d'accord avec vous, mais vaut mieux tard que jamais, je pense. Là, ces informations, là, ils vont arriver.
Merci.
Parfait, merci beaucoup. Donc, Mme Lié avait une autre question. Je me permets de l'adresser tout de même, malgré le fait qu'elle a déjà quitté la rencontre. Elle écrivait « Concernant le lotissement en hauteur, le nouveau règlement prévoit-il une limite en hauteur pour tout bâtiment? Combien d'étages sera-t-il possible de construire? »
Oui, c'est clair que le règlement là, favorise toujours ce qu'on appelle un étage et demi. Mais vous comprenez que dans les différentes possibilités ou les différents usages, si on va dans les zones plus commerciales, si on va dans les espaces là, plus touristiques, vous comprenez que la norme peut différer parce que les besoins sont différents. Mais au niveau de l'architecture, là, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements dans le nouveau règlement.
Ben, il y a au niveau des garages. Hein?
Oui, c'est vrai, M. Bussière, oui. Les garages.
L'entrée des garages.
Un maximal plus élevé, oui.
Parfait, merci beaucoup. Madame Marie Gosselin indique que, afin de ne pas créer d'attente, il serait important de cesser de parler de consultation publique, mais plutôt d'une séance d'information, comme il a déjà été confirmé lors de la séance du Conseil de mai.
Oui.
Comment et quand les citoyens seront-ils informés de cette rencontre et est-ce que des rencontres cas par cas ou personnalisées seront aussi prévues?
C'est clair que nous sommes à organiser la séance d'information publique où on espère répondre à la majorité des questions. Puis c'est à la fin ou durant cette rencontre-là qu'on va, voir si des questions plus précises doivent être répondues soit par le contracteur, soit par les ingénieurs de façon plus directe. Mais la décision va être prise. C'est clair qu'on veut informer les citoyens sur le fonctionnement du réseau.
Parfait. Madame Charon mentionne que M. le maire n'a pas répondu à la question sur le coût annuel qui sera imputé aux citoyens. Quel sera le montant? 500? 1000? 1500? Par année?
Ouais. Actuellement, tout ce qu'on a comme information, c'est le montant du contracteur, autrement dit le 12 millions, lequel a été majoré de 30 % pour différentes contingences. Okay? Ce qui donne un coût, je vous dis ça de mémoire approximatif, là, au-delà de 1 400 $ par porte par année pour les utilisateurs. Il y a un montant minime là, pour ceux qui ne sont pas utilisateurs. Ça, c'est la base de calcul qu'on a aujourd'hui.
Parfait. Merci beaucoup. Madame Marie Gosselin, en suivi du commentaire de M. Côté, il est important de comprendre que la majorité des citoyens ne s'objectent pas à se rendre conforme. Nous aussi, on se demande pourquoi pendant de nombreuses années, on ne nous invitait pas à attendre, à se conformer car le dossier était entre les mains de la municipalité. Désolée, peut-être que c'est un petit peu la fatigue qui embarque, je ne sais pas si ça a été clair. Les questions sont davantage motivées par le fait que par manque d'informations, probablement, il est difficile de comprendre que le système retenu est le meilleur et au réel bénéfice des citoyens. Encore une fois, information, information, information. N'ayant été aucunement consulté et si peu informé, les questions devraient être considérées légitimes. Vivement une rencontre d'information, nous pourrons, je l'espère, au moins comprendre les principaux choix qui ont été faits pour nous par notre conseil et ce qui les a motivés.
Parfait, c'est un commentaire, là, je le prends, merci. Est-ce que c'était une question?
Oui, alors Madame Charon, par souci de transparence, pourriez-vous configurer la prochaine réunion du conseil municipal sur Zoom de manière à avoir le nombre de citoyens, de tous les citoyens présents et à nous d'accorder la parole autrement que par écrit?
Monsieur Labbé ou Monsieur Côté, là au niveau technique, je ne sais pas comment on peut organiser ça.
Je veux pas être trop optimiste ou quoi que ce soit, là, mais en regardant ce qui s'en vient, il y a peut-être des... En tout cas, on va regarder ce qui arrive au niveau des normes sanitaires, mais il y a des bonnes chances que le prochain conseil puisse être en présentiel. Là, je le dis sous toute réserve, là, mais normalement, on aurait la possibilité de le faire. Je sais pas si on va pouvoir le faire avec des contraintes de participants ou pas, mais en tout cas, moi, je pense que quand on va tomber zone jaune, je pense que c'est le 14 juin, quelque chose comme ça, là, on va être en mesure de tenir ça en présentiel. En tout cas, toute réserve, là, mais ça devrait être le cas. Sinon, on pourra voir techniquement, là, je pense que pour donner le son, on peut faire des tests, voir normalement, c'est possible, là.
Ouais.
Pour voir un peu là, le rendu que ça peut donner. Là.
Merci.
Parfait. Désolée, je croyais que Mme Lié avait quitté, mais non, elle est avec nous. Donc, par rapport au garage, la question qu'elle avait par rapport aux hauteurs et tout, là, référence à garage résidentiel ou communautaire ou commercial?
Je réponds à ça. Dans la majorité des cas, on a eu la hauteur de garage, c'est ce qui a suscité le plus de dérogations mineures depuis les 10 ou 15 dernières années. L'ancien règlement permettait une hauteur maximale de 4,5 mètres, alors qu'on permet jusqu'à 10 mètres pour les bâtiments principaux. Donc, à la révision de tout ça, on en arrive, je pense, au lieu de 4,5 mètres, on va permettre jusqu'à 5 mètres la hauteur maximale des garages. Puis, on pense que ça va régler la majorité des cas problèmes qu'on a.
Ou 75% du bâtiment principal.
Voilà. C'est bon, M. Labbé, merci.
Et c'était des garages résidentiels qu'on traite ouais. Généralement à Sainte-Pétronille.
Voilà.
Parfait. Madame Esther Charon, il y a quelques années, le Conseil référait à un règlement du ministère des Affaires municipales qui prévoyait un plafond au montant chargé aux utilisateurs payeurs dans un projet tel que celui des eaux usées. C'était alors 600 $. Qu'en est-il aujourd'hui?
Moi, je ne suis pas capable de répondre à ça. Est-ce que M. Côté ou M. Labbé avaient d'informations sur ça? Ça ne me dit rien, moi, là. Pas de réponse à cette question-là, Mme Blois.
En tout cas, chose est sûre, c'est que ceux qui se mettent conformes dans le haut du village, un système d'épuration des eaux usées peut jouer dans les 25 000 faciles. Fait que si vous calculez qu'après 25 ans ou 30 ans, ils doivent le refaire, puis que versus un système comme au bout de l'île va être construit, ce ne sera pas un système qui va être à reconstruire dans 25 ans. Fait que si vous avez la chance de vivre les 50 prochaines années, ben vous allez être gagnant.
Ouais.
En tout cas, d'après moi, je connais pas ça.
Ouais, merci.
Parfait. Alors, la dernière, ce n'est pas une question, mais plutôt de nous offrir de l'aide dans l'éventualité ou si on devait poursuivre en Zoom. Madame Charon nous propose son aide là pour venir nous aider le cas échéant.
Parfait. Okay. Là, mais merci beaucoup. En tout cas, souhaitons qu'on n'aille pas à le faire, qu'on soit capable de le faire en présence avec tout le monde. En tout cas, ça serait bien, ça serait le fun de commencer l'été là, de cette façon-là. Mais sinon, ben en tout cas, on va essayer. Puis si madame, si elle veut bien nous aider, ben d'autres, on est ouvert.
Parfait. Alors, ouais. Merci, ça met fin la période de questions.
Bon, ben merci. Le point 21, levée de la session. Qui propose la levée de l'Assemblée?
Bussière.
Éric Bussière.
Monsieur Bussière, bon, ben merci beaucoup. Donc, l'Assemblée est levée. Ce soir, je veux particulièrement remercier, là, premièrement, tous les élus qui ont été ici, puis aussi le directeur général, la directrice générale adjointe qui nous ont aidés à la préparation et surtout aux répondre à toutes les questions. Il est actuellement 10h35. C'est à 2h30 qu'on est à réunion. On est vraiment fiers du projet d'assainissement des eaux là, qui s'en vient. Puis si on vous invite à poser d'autres questions, s'il y en a, puis certainement qu'on va vous inviter à une séance d'information publique là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Bon mois à tous.
Merci.